parler, c'est déjà avancé. La nuit, la parole est libre. Un secret partagé est toujours plus facile à porter. 21h, 23h, Confidence. L'émission Sans Tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Chers amis, et bienvenue sur Beurre FM. Il est 21h, c'est l'heure de Confidence et nous sommes mercredi 1er février 2023. Nous avions jusqu'à hier pour nous souhaiter une bonne année, mais bon, allez, on va faire du rab. Excellente année, bonne santé surtout à toutes et à tous. 1er février, qui dit février dit mars, hein, parce que février est le mois le plus court de l'année. Alors je ne sais pas si on est bisextile ou je ne sais quoi.
Je crois au 2026.
Le 28.
Non, 26 février.
Mais non, c'est 28.
Ah ouais.
Bah oui. Je sais pas. Oh, tu mets le doute. Hein. Je vais regarder.
Non, je vais réfléchir sur mon GSM portable.
D'accord, mais je te laisse déjà prendre les appels.
On finit le 28. Effectivement.
Voilà, le 28. Qui avait raison ?
C'est toi. Comme d'habitude.
Voilà. Mais c'est pas comme d'habitude, mais là, oui. En l'occurrence.
Des programmes riches, faisaient varier.
Eh ben voilà, dit-il. Eh bien oui, chers amis, nous sommes. Le 1er février, le mois le plus court de l'année. Donc mars va arriver très vite. Et qui dit mars, dit printemps. Voilà, c'est le printemps bientôt. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Toujours anticiper, mais vers le meilleur. Toujours. Et voir toujours le bon côté des choses. Il faut toujours rester positif, relativiser. C'est ce que je fais. Toujours. Et ça réussit, croyez-moi. Alors 01 53 48 3000. Quelle joie, quel bonheur de vous retrouver en cette soirée donc du 1er février, chers amis. J'espère que vous allez bien. Sinon, bah écoutez, je vous souhaite d'aller mieux, mais je sais pas, mon petit doigt me dit que si c'est pas le cas, d'ici 23 heures, tout rentrera dans l'ordre chez vous. Vous allez voir, on va vous apporter de bonnes ondes. Soyez nombreuses et nombreux à appeler ce soir. Hein, je compte sur vous, hein, 01 53 48 3000. OK, pour un sujet, vous allez voir, un sujet qui sort un peu de l'ordinaire, qui m'a été suggéré, j'avoue, vous voyez, comme quoi je vous écoute, hein, par Loulou. Alors Loulou, c'est une auditrice fidèle, je te fais de gros bisous ma Loulou, donc qui m'a suggéré ce thème, et je lui ai promis qu'on en parlerait, qu'on allait l'aborder, ben voilà, ça va être fait ce soir, et je suis sûre que ce thème va vous donner l'envie d'appeler. Voilà, donc éteignez surtout, si vous avez de la lumière, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Donc faites une petite ambiance cosy, tamisée chez vous. Voilà, pas de bougie parce que ça peut être dangereux, mais une petite, une petite veilleuse, on va dire. Hein ? Non, ne la mettez pas en veilleuse. Allumez une petite veilleuse. Voilà, vous savez celle qu'on met sur cette petite table de chevet. Voilà, vous allez comprendre pourquoi je vous mets dans l'ambiance. 01 53 48 3000. Mais avant de vous donner la parole, permettez-moi d'avoir une pensée. Pour nos amis qui sont souffrants, je vous souhaite un prompt rétablissement. Ainsi qu'à vous qui êtes hospitalisés ou seuls chez vous. Une pensée également aux personnes incarcérées ainsi qu'à vos familles. Et bien sûr, on n'oublie pas les courageuses et les courageux du soir, vous qui travaillez de nuit. Une pensée également aux personnes qui n'ont pas de domicile fixe, aux sans-papiers, aux réfugiés, aux animaux. Une pensée à tous les terriens, sans distinction aucune. Voilà. Non, on pense à tout le monde, nous, hein. Pas de différence entre les terriens. Vraiment pas. Je sais pas, il y en a qui la voient, moi je la vois pas. Eh bien écoutez, on va dire bonsoir à Anthony. Anthony qui réalise cette émission, comme tous les soirs. Bonsoir Anthony.
Bonsoir Vanessa, et bien écoute, très content de vous retrouver.
Voilà.
C'est un plaisir.
C'est un plaisir, toujours. Et Anthony vous répond aussi au standard, avec sa jolie voix, hein, comme
exactement.
Vous l'entendez.
J'attends vos appels. Faites péter le standard, comme on dit avec Adi.
Voilà, faites-le. Allez, on y va, je vous attends. Nombreuses et nombreux.
avec les programmes riches
et les variétés. Tu remarqueras, j'aime les liaisons. Parce que la langue française, eh bien, c'est une langue qui est particulière. Et le respect des liaisons est très important. Très, très important, attention. Et puis, il y a des, comme c'est une langue qui est riche et variée, qui est riche, voilà. Eh bien, c'est vrai qu'il y a des mots, hein, parfois, qui se suivent, mais où la liaison disparaît. Alors, il y a le H, voilà, hein, devant un mot. Hein, donc, ce H qui dit bien ce que ça veut dire, puisqu'il n'y a pas de liaison, juste après. Voilà. Alors donc, je ne sais pas si on ne dit pas H, le H aspiré. Il y a ça, et puis parfois, malgré le H, il faut respecter la liaison aussi. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est une langue un petit peu qui sort de l'ordinaire. C'est pour ça qu'elle n'est pas facile, hein, la langue française. Mais elle est tellement riche, elle est tellement belle, et elle est tellement... comment dire, elle est... c'est une langue... Eh bien, qui est parlante. Vous voyez, quand je dis parlante, peut-être que certains vont dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? C'est-à-dire qu'il y a des langues, c'est vrai, regardez, l'espagnol, moi j'aime beaucoup, mais j'ai l'impression que ce sont l'anglais, etc. Eh bien, d'un mot à un autre, eh bien, dans une phrase, parfois, on sait plus trop parce que il y a un manque entre les deux, il manque quelque chose. Je sais pas si vous me suivez, c'est un peu compliqué ce que je dis. Ah, c'est un peu compliqué. Alors que dans la langue française, je me suis embourbée dans un truc. Oui, oui, Anthony. Non, dans la langue française, ce que je veux dire par là, eh bien, on a l'impression qu'on ajoute tellement de mots qui servent à rien. Tu comprends? Mais en réalité, ils ont tous leur raison d'être.
Vous avez 4 heures, voilà, c'était de la philosophie.
À 2 balles, de comptoir. Mais moi, je me comprends. Parce que...
Si tu te comprends, tant mieux. Moi, tu m'as complètement perdu au bout de 2 mots.
Ben, je sais, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, vous avez un problème avec la langue française. Alors, vous parlez LOL, par exemple. Là, ça, c'est de l'anglais.
Le langage SMS.
Vous voyez, par exemple, en anglais, on n'a pas besoin de... Dans une phrase, vous mettez quoi? 2-3 mots, et puis paf, la phrase, elle est faite. Hein, elle est constituée. Alors qu'en français, c'est complètement autre chose. C'est vrai. En anglais, par exemple,
Moi, ils sont simples.
Moi, j'ai l'impression que quand on dit LOL, on parle anglais. MDR, c'est pareil.
Bah, mort de rire.
Voilà.
Comme c'est carré, c'est
carré.
R.
Voilà. Ouais, il y a un langage nouveau qui est sorti. Peut-être qu'il est bien, ce langage, j'en sais rien. J'ai pas envie de.
Bien, hein. Je peux te l'apprendre.
J'ai pas envie de mettre un jugement. Mais très honnêtement, moi, je me perds, hein. Je me sens perdu dans cette, voilà. Voilà. Et alors, pour bien, comment dire, si vous aimez la langue française et la sonorité, je vous suggère un livre. Un style très particulier.
Le Becherel?
Je l'ai lu, non. Je l'ai lu, je ne sais combien de fois. Et d'ailleurs, je l'ai conseillé à une amie, cette semaine. Alors, je ne sais combien de fois, je l'ai lu, relu, et je le possède en plusieurs exemplaires. J'en ai un qui date de une édition très ancienne, et j'en suis fière. Et sinon, on peut l'écouter aussi en audio. Alors, c'est Voyage au bout de la nuit de Céline. Alors, Louis-Ferdinand Céline, c'est un auteur qui est médecin à la base et qui est un auteur assez particulier parce qu'il a inventé un nouveau style, vraiment, qui est étudié aujourd'hui dans les universités, etc. Et cet auteur qui, bon, c'est vrai que, bon, l'homme, c'est une chose, hein, voilà, à son époque, il y avait une époque qui était un peu particulière, hein, voilà, c'était durant la Seconde Guerre mondiale, et lui n'avait pas des idées, on va dire, très saines. Donc, il faut dissocier l'homme de l'auteur, comme disent les intellectuels qui, justement, sont fervents, en tous les cas, de ses œuvres. Voilà. Donc moi c'est l'écrivain qui m'intéresse, hein, parce que l'homme c'est pas ce qui m'intéresse, mais l'écrivain est vraiment juste un génie. Voilà, c'est un génie. Et Voyage au bout de la nuit, moi j'ai essayé de lire, je sais plus, il y avait un autre livre aussi, je sais plus, mais bon, j'ai pas été jusqu'au bout. Mais par contre, Voyage au bout de la nuit, je peux vous assurer que ça m'a révolutionné quelque part le cerveau. Et depuis, eh bien voilà, son style, etc., qui est chantant. Tout à l'heure, je vous parlais de la langue française. Voilà pourquoi tout à l'heure, je vous parlais, je me suis un peu embourbée, mais c'est une langue qui a une sonorité un peu particulière. C'est-à-dire que, d'un écrivain à un autre, d'un auteur à un autre, eh bien, avec les mêmes, la même langue, les mêmes mots, eh bien, vous entendez des sons qui sont complètement différents, vous voyez, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Voilà, donc c'est pour ça que cette langue, elle est intéressante. Donc je vous suggère vraiment Voyage au bout de la nuit, mais on peut pas le lire en une fois. Hein. Je peux vous assurer que vous, enfin, une seule fois ne suffit pas une lecture. Hein. Il faut y revenir parce qu'on y retrouve des choses qui nous ont échappé. Voilà, c'est assez profond, bien sûr, et en même temps, ça nous apprend beaucoup du genre humain, on va dire. 01 53 48 3000. Eh bien, ce soir, nous n'allons pas parler de littérature, chers amis. Quoique c'est un domaine que j'aime, mais on va parler ce soir. Voilà. Ben on a l'ambiance. Voilà. Vous avez éteint la lumière? Petite lumière d'ambiance. Hein, voilà. Alors, avez-vous déjà vécu une expérience paranormale? Alors ça, c'est Loulou hein, qui m'a proposé ce sujet. Alors, avez-vous déjà vécu une expérience paranormale? Vous allez nous en parler ce soir. Alors, rêve prémonitoire, vision, pressentiment, expérience de mort imminente, apparition, message de personnes décédées. Des millions de personnes parfaitement équilibrées ont déjà vécu un phénomène paranormal. Les scientifiques tentent de comprendre. 32% des Français affirme avoir déjà vécu une expérience extraordinaire. Télépathie, prémonition, sortie de corps. Et 70% prennent le paranormal très au sérieux, indique un sondage réalisé en 2015 par le magazine Science et Vie. De plus en plus de médecins hospitaliers n'hésitent plus à faire appel à des coupeurs de feu pour soulager de grands brûlés. Il arrive aussi que des archéologues ou enquêteurs fassent discrètement appel au service de médiums. Signe des temps, les expérienceurs intéressent de plus en plus la recherche. Les physiciens quantiques estiment qu'il existe un autre type de réalité qu'on ne peut décrypter qu'avec les lois de la physique classique. Les dernières découvertes sur les propriétés de la matière nous oblige à changer de regard sur le monde, explique Philippe Guillemant, physicien et chercheur au CNRS. Vous voyez, à tel point c'est sérieux. Hein. Cette hypothèse pourrait expliquer de nombreux phénomènes paranormaux. Une chose est sûre, ces phénomènes étranges doivent être pris au sérieux et étudiés afin de faire avancer la science et qu'un jour on puisse enfin expliquer une part de l'incroyable. Voilà, chers amis, je pense que vous... Moi, nous avons vécu au moins une fois dans notre vie hein, un phénomène paranormal. Voilà, une expérience qui sortirait de l'ordinaire. Voilà. Donc voilà, je vous en ai parlé, je vous ai fait toute une liste. Hein, par exemple, les rêves prémonitoires, etc. Et il n'y a pas de réponse. Voyez-vous, il n'y a pas de réponse parce que ces phénomènes, ces situations nous dépassent. Elles viennent, elles viennent d'ailleurs. Voilà. En tous les cas, elles sont surtout pas humaines. Alors, la science aujourd'hui, eh bien, se bute, justement. Elle ne peut pas avoir de réponse. Elle n'a pas de réponse. Et c'est pour ça que souvent, les scientifiques, eh bien, nous parlent de phénomènes, qui viendraient de notre cerveau, que tout ça est cérébral, que c'est neuro, je ne sais quoi, voilà. Parce que, on sait très bien que les scientifiques, eh bien, n'aiment pas rester sans réponse. D'accord? C'est le contraire des philosophes qui, eux, n'ont jamais de réponse, mais sont des poseurs des questions et les bonnes questions surtout.
Et toi, du coup, c'est quoi ton...
Ah, ben, je le dirai tout à l'heure. Je dirai tout à l'heure. Oui, en cours d'émission, je parlerai de mes expériences à moi. Mais bon. Voilà, mes expériences ne sont pas intéressantes. Moi, j'ai envie d'entendre et d'écouter celles de nos auditeurs au 01 53 48 3000. Allez, faites-moi plaisir. On vous attend. Dépêchez-vous. Venez aborder ce sujet qui est, ma foi, fort intéressant. Par contre, si vous voulez parler d'autre chose, videz votre cœur qui est trop plein. Cherchez quelques réponses et un soutien. N'hésitez pas. Vous ne serez jamais hors sujet, chers amis. Voilà, c'est votre radio, c'est votre émission, vous en faites ce que vous voulez. 01 53 48 3000, on marque une courte pause et on revient juste après avec vos appels. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
au 01 53 48 3000. Et ce soir, nous parlons d'expériences paranormales, de phénomènes qu'on aurait vécu, parce qu'on a tous vécu quelque chose. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que par peur de se faire prendre pour un fou, hein, ou une folle, tout simplement. Donc il y a une espèce d'omerta, hein, qui fait que les gens n'en parlent pas trop, et néanmoins, ces phénomènes existent. Je veux dire, qui n'a pas fait un jour un rêve prémonitoire, ou a vu quelque chose qui sort de l'ordinaire, une apparition, entendu quelque chose, dans une maison, des portes qui claquent alors que toutes les fenêtres sont fermées, qu'il n'y a pas de courant d'air, des lumières qui s'allument, un verre qui tombe et qui casse dans la cuisine. Alors, il n'y a personne, il n'y a pas de chat, il n'y a rien dans la maison. Enfin, voilà, il y a des choses, des apparitions, comme des fantômes, etc. Enfin, on appelle ça des fantômes, mais bon, voilà, il y en a qui appellent ça des esprits. Et voilà, il y a des choses qui, voilà. Et aujourd'hui, on parle aussi beaucoup d'ovnis, de personnes, des extraterrestres, etc. Et même la NASA, eh bien, qui ne dit pas tout, bien sûr, eh bien, s'intéresse, on le sait, hein, puisque des astronautes, eh bien, après leur retraite, ont essayé un petit peu, à travers quelques articles, d'expliquer un petit peu des choses que eux avaient vécu, hein, lors d'expéditions extra hors de terre, hein, et des pilotes de ligne aussi, hein, qui ont aperçu des engins qui sont un petit peu bizarres pour eux, hein, qui n'ont rien d'humain, qui sont ni des avions ni rien de connu, en tout cas. Voilà, beaucoup de pilotes d'avions de ligne ou de chasse aussi qui racontent ce genre de phénomène. Il y a des personnes comme ça qui disparaissent et qui réapparaissent, et puis les EMI, hein, les expériences de mort imminente, ça aussi il faut en parler, ça en fait partie, hein. Bon nombre d'entre nous l'ont vécu, ça, hein, ces expériences de mort imminente, hein. Vous savez, ces morts cliniques dont on parle tant et dont beaucoup de médecins s'intéressent, en tout cas. Y a un médecin d'ailleurs qui s'est beaucoup intéressé et qui a écrit là-dessus. 01 53 48 3000. Eh bien, j'attends vraiment, vraiment de vos témoignages ce soir, chers amis. Alors, on a Karim de Drancy, on a Nadia juste après de Paris, de Belize, comme elle dit. Karim, bonsoir Karim.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Karim, bienvenue à toi.
Merci.
Oui.
Alors, je vais commencer par une histoire très très forte quand même.
Ah.
C'est arrivé à mon petit frère.
D'accord.
Voilà. Donc, un soir, il rentrait après le travail et tout, tranquillement, à la maison. Et on habite dans un bâtiment de 18 étages.
18 étages, ouais.
Voilà. Et quand il est arrivé en bas, il a trouvé une fille. Qu'elle avait les yeux très, très rouges, d'après ce qu'il nous a raconté. Et il avait une pression sur la tête, il avait super mal à la tête. Donc, ouais, il voulait faire demi-tour et tout ça. Et la fille, elle lui a dit, est-ce que vous avez besoin d'aide? Alors là, il est parti en courant, il n'a même pas dormi à la maison, il est parti dormir chez ma sœur.
D'accord.
Qui habite un peu plus loin.
Alors, la fille, elle avait les yeux rouges. Est-ce que c'est des yeux rouges comme on pourrait avoir quand on est malade ou non, c'est pas ça?
La
pupille était rouge. C'est-à-dire qu'au lieu d'être de couleur.
De couleur normale, connue, comme les êtres humains.
Voilà, marron, bleu ou vert, là, ils étaient rouges. Ah oui.
Voilà. Et surtout la pression qu'il avait sur la tête, il m'a dit pourquoi il avait super, super mal à la tête d'un seul coup. Hein. C'est arrivé d'un seul coup.
Il y a longtemps de ça?
Ouais, c'est arrivé il y a quoi, 4 ans, 5 ans?
Il avait quel âge, son frère?
Il a la trentaine. Hein. Maintenant,
d'accord. Il s'en souvient, bien sûr, parce que ça l'a marqué.
Oh non, c'est pas un petit jeune, c'est pas.
Oui, même un enfant peut vivre ce genre de phénomène. Et donc, aujourd'hui, il en est encore quelque part un peu marqué, hein?
Non, parce que non, il a oublié. Ça va, on est solide. Ouais, ouais, ouais. Mais d'accord. Sur le coup, il a eu très, très, très peur et tremblé.
Ouais.
Il a même pas dormi à la maison. Ouais.
Cette personne, elle était comment? Elle était vêtue, elle était habillée comme nous, enfin, elle était comment? Il sait pas trop.
Ouais, elle était habillée normale. Hein.
D'accord.
Normale.
Mm-hmm.
Et franchement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé ce jour-là.
Oui.
Voilà.
Ah oui, non, mais des phénomènes, c'est incroyable. Et toi-même, tu n'as pas vécu quelque chose Plus ou moins.
Ouais, j'ai vécu une histoire. Bon, moi, j'avais fait Rokia, comme on appelle ça. Mmh. Et j'étais, une période où j'étais vraiment pas bien. J'étais mal dans mon corps, dans mon esprit, tout ça. Et je me rappelle ce jour-là, ma mère, elle avait mis le Coran. Et j'étais dans la cuisine, je commence à cracher. Le truc qu'on fait jamais à la maison, chez nous. Jamais, on a été éduqués et tout.
Oui, oui, bien sûr.
Et quand elle a mis le Coran et tout ça, j'arrivais pas à supporter le Coran. J'arrivais pas du tout à écouter le Coran. Je commençais à cracher par terre et tout, dans la cuisine et tout ça. Mon frère, il m'a dit, j'ai vu ça, j'étais choqué. Même mon frère, il était choqué. Et par la suite, ils m'ont ramené quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, cette personne-là, je ne l'avais jamais vu dans ma vie. Hein. Jamais. Mais quand il était en face de moi, j'avais l'impression que, je ne sais pas, c'était mon pire ennemi. Hein. Vraiment mon pire ennemi. Donc, il était en train de faire un discours à toute la famille, tout ça, mes parents, mes frères, mes sœurs et tout. On était dans le salon. Et moi, je le regardais, mais vraiment méchamment. Je le regardais de travers et je tremblais. Et d'un seul coup, il m'a regardé. Il m'a dit, c'est un homme ou c'est une femme? Il dit, c'est un homme. Il m'a dit, j'arrive, je vais m'occuper de toi. Et franchement, waouh, c'était une expérience. Mon frère, il m'a dit, je voyais ça dans les films, je l'ai vu à la maison.
Ouais, t'étais un peu en transe, ou oui. Ouais, c'est...
Ah oui.
Ouais, c'est des phénomènes parfois, oui, particuliers. J'ai déjà entendu parler de ce genre de choses. Et ça peut être vécu dans toutes les cultures, bien sûr. Oui.
Mais franchement, moi, ça m'a servi. Hein. Honnêtement, ça m'a servi dans ma vie. Hein. Et surtout quand j'ai vu la personne qui est venue pour me faire la roquette, je ne sais pas, on dirait il avait tué ma mère.
Oui, j'avais parce que une
haine contre lui. Hein.
Oui, parce que tu n'étais pas en état pour... Tu étais mal déjà avant, hein, donc tu n'étais pas en état de recevoir qui que ce soit devant toi. Hein. Ce genre de phénomène... Eh bien, en général, on ne supporte personne.
Voilà, et surtout quand ils étaient entourés de ma famille, mes parents, mes frères, mes sœurs et tout ça. Mm-hmm. Et mon frère, il m'a raconté après ce qui s'est passé. Moi, j'étais même pas là. Mm-hmm. La moitié, j'étais là et l'autre moitié, j'étais pas là. Mm-hmm. Et ce qui est pareil quand ils disaient tu sors ou tu sors pas.
Ouais, enfin, oui, enfin bon, ça, c'est des croyances. Mais toi, tu es sorti, tu es, comment dire, avant que ce phénomène ne se produise sur toi, enfin l'état dans lequel tu te trouvais, mais quelques jours avant, est-ce que tu étais fatigué, peut-être surmené aussi, ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out, tu vois? Est-ce que tu étais en état de surmenage, fatigué peut-être par les études, le travail?
Oui. Non, moi c'était un stress par rapport à mon ex-femme et tout.
Voilà,
ça.
Voilà, c'est ça. C'est ça.
C'est
pour ça que je te pose cette question. Parce que souvent,
complètement chamboulé.
Parce que souvent, on sort de soi. C'est pour ça qu'on dit, il est sorti de ses gonds, il est sorti de lui-même, sorti de son corps, etc. Ça dit bien ce que ça veut dire. Hein. Quand on passe des périodes difficiles, moi, je l'ai entendu ça de la part de parents, de jeunes qui font des études, hein, qui ont des examens à passer et qui s'acharnent, hein, qui sont vraiment, tu vois, qui se donnent à fond, qui ont tellement peur d'échouer, qui se donnent à fond, qui ne dorment plus, presque plus, qui dorment moins, qui se donnent tellement à fond, vraiment, eh bien, parce qu'on a besoin de sommeil, bien entendu, pour récupérer. Et eux, eh bien, ce manque de sommeil, cette fatigue, etc., les met dans un état de stress tel que, eh bien, ils finissent par être tellement épuisés que le cerveau, il suit plus, il disjoncte. Tu vois, ça fait comme un bug. Donc, il disjoncte. Moi, je l'ai entendu, ça, de la part de parents qui me parlent de leur enfant. Toi, tu t'en es bien sorti. Beaucoup s'en sortent fort heureusement, mais il y en a malheureusement qui plongent vraiment dans un profond désespoir, vraiment ce qu'on appelle le mot m'échappe, tu vois, je sais même plus.
Burnout.
Non, c'est pas ça, c'est une dépression, voilà. C'est tout bête, c'est un mot qu'on utilise tous les jours, mais là. Donc, dans une profonde dépression, qu'on appelait dépression nerveuse, et elle porte bien son nom, c'est ce qu'on disait avant, aujourd'hui on dit
ouais, c'est
tout
qu'on
simplement dépression.
Le contrôle, on n'arrive plus à gérer la vie.
Eh bien, je peux t'assurer qu'il y a des jeunes qui ont du mal à s'en sortir, et qui ont tout abandonné, études, travail, et ça s'est transformé ont une maladie mentale, malheureusement, et qui sont devenus schizophrènes. Moi, j'en ai vu hein, des gamins, des jeunes, tomber dans la schizophrénie. Après une grande fatigue mentale. C'est pour ça que je dis aux parents, faites attention quand vos enfants doivent passer un examen, etc. Pas trop d'acharnement. Faut vraiment les motiver à se reposer aussi. Hein. Se reposer, hein. Quoi qu'il arrive, on peut échouer un examen et puis recommencer l'année d'après, on peut renouveler. C'est pas un problème, hein. Mais il faut garder sa santé, c'est ça qui est important. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes qui n'ont jamais pu remonter la pente et retrouver leur esprit, hein. Voilà, comme on dit. Et qui sont tombés dans la schizophrénie, paranoïa, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on peut basculer très vite.
Un cerveau,
le cerveau humain, il est très fragile, attention. Hein.
Faut pas forcer.
Eh oui, justement.
Et puis, même si on rate un examen, c'est pas la fin du monde. Voilà. Il y a plein de gens qui, ils ont pas de diplôme et tout ça, ils arrivent à vivre correctement.
Oui, mais on le sait, ça. Mais ceux qui sont dans la situation, ils n'écoutent pas. Il y a ça.
Voilà.
Et puis, toi, tu sortais d'une séparation, de problèmes avec ta femme, etc. Donc, il y a toujours un point de départ. C'est pour ça que je te posais la question. Il y a toujours un point de départ. Et ce que tu as eu, c'est vraiment une grosse fatigue nerveuse, qu'on appelle le burn-out aujourd'hui, et qu'on appelait une forme de dépression, de déprime avant. Voilà, c'est ça. C'est ce qui t'est arrivé. Hein. Donc maintenant, après, dans chaque culture, il y en a qui font appel à des choses, enfin, alors qu'il y a des choses comme ça. Enfin, chaque culture, je veux dire, a ses croyances maintenant. Mais voilà. Mais la science explique exactement le phénomène. C'est tout simplement que la personne, eh bien, elle tombe dans une profonde dépression et ça peut être très embêtant. Alors donc, il faut faire attention aussi, hein, parce que moi je dis toujours qu'il faut faire appel à des spécialistes, à des professionnels, des médecins. Écoutez-moi bien, les gens. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà entendu des personnes dont les enfants, les jeunes à l'âge de l'adolescence ou des jeunes adultes, etc., qui tombent dans cette forme de maladie, parce que la dépression c'en est une, et qui ne sont pas soignés comme il faut. Et suite à ça, parmi les plus vulnérables, ben, ils se retrouvent à tomber dans ce qu'on appelle une schizophrénie. Voilà, il y a plusieurs stades à la schizophrénie. Et les parents, pour ceux qui sont dans des croyances telles qu'ils ne pensent pas tout de suite aller voir un médecin, un psychiatre, donc ils font appel à des imams, des gens qui n'ont rien à voir avec la médecine, hein, qui n'ont rien à voir avec la maladie de la personne, et qui font ce que tu dis, d'Aloria. Et ça peut être très dangereux et très 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 destructeur. Attention, c'est vraiment il y a pour beaucoup qui ont perdu carrément la tête. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est pas un remède, c'est pas des médecins. Donc ces jeunes ont besoin de médecins pour les soigner, parce que ça s'appelle la schizophrénie, et il y a plusieurs formes de à cette maladie, et les gens pensent que c'est que nos djinn. Qu'est-ce que c'est que nos djinn? Vous la djinn? Non, mais c'est n'importe quoi.
Oh là là, c'est un appartement.
Non, mais bien sûr. Non, mais ça, c'est n'importe quoi. Alors, il y a djinn gawri, djinn yahoudi, djinn arbi, djinn khal, djinn hakda, djinn. Tu vois, il lui donne des formes, des couleurs, c'est incroyable. Alors que non, ce qu'ils décrivent là, ce sont des êtres humains. Et les êtres humains, nous sommes tous de différentes cultures, de différentes couleurs, etc. Obédience religieuse, voilà, on est différents. Mais les djinns, il y a pas. Voilà, faut arrêter avec ça. Il faut aujourd'hui, on n'est pas dans l'ignorance. Quand on a un enfant qui se retrouve dans cette situation, appelez un médecin. Voilà, prenez-lui un rendez-vous chez un psychiatre. C'est très important, sauvez votre enfant. Au lieu d'appeler un imam. Un imam n'est pas un médecin. Un imam, il est là pour parler de la religion. Voilà, ça se respecte. Mais c'est pas un médecin. Hadek ruqya, hadek, si vous êtes en forme et que ça vous fait du bien de une ruqya, il n'y a pas de souci. Bien sûr, si vous êtes, vous avez tous vos esprits, il n'y a pas de souci. Mais, voilà. Mais quand un malade, on lui ramène pas ruqya. Un schizophrène, c'est un schizophrène. Marash mskoun. Il n'y a pas de djinn. Voilà, il n'est pas habité par un djinn, etc. Faut arrêter avec ça. Ça, c'était l'époque archaïque de nos ancêtres qui ne connaissaient rien à ces maladies et qui pensaient systématiquement que mskounine, qui sont habités et qu'il y a un djinn qui est passé par là et qui est entré en eux. C'est n'importe quoi. Voilà, donc il faut faire attention. Moi, je précise, hein, vraiment, je profite de cette émission pour vous dire, faites très attention. Les phénomènes dont on parle ce soir n'ont rien à voir. Les apparitions, les rêves prémonitoires, etc. Ça, c'est parce que on est des personnes équilibrées. Et des fois, on remarque qu'il y a des choses, peut-être, qui sont surnaturelles, comme les ovnis, comme des choses comme ça. Et on est curieux. Moi-même, je suis très curieuse et friande de ces choses-là. Mais voilà. Mais à partir du moment où la personne, elle est en état de déséquilibre et qu'elle a besoin de soins, ne lui apportez surtout pas un imam pour faire Adrokia alors qu'elle a besoin d'un médecin. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup, j'en ai connu, des parents qui m'ont confié leur histoire et qui ont ramené des imams, ils ont fait Adrokia, etc. Ça a empiré l'état de leur enfant qui, aujourd'hui, a tout abandonné et est véritablement malade. Voilà, donc
Adrokia,
c'est bien pour les personnes qui sont en bonne santé.
Moi, je connais quelqu'un, et il me parlait qu'il entendait des voix et tout ça, et la paranoïa, mais totale. Hein. Ça, même, il a même dormi chez moi et tout ça, et une fois, il me réveille, il me dit, ouais, il parle sur moi. Je dis, mais il n'y a personne. Il n'y a personne, tu peux dormir tranquille et tout ça. Et pareil, il y a quelqu'un qui vient me serrer la main et tout ça, c'est qui celui-là? Et ouais, il me regarde, il me surveille. Je dis, non. Et finalement, bah, on l'a ramené voir un médecin, il lui a donné des médicaments.
C'est bien, c'est bien.
Voilà, il lui a donné des médicaments et tout ça. Ben, quand il prend ses médicaments, il est dans un état bien, il rigole et tout ça. Il prend du poids. Mais dès qu'il arrête ses médicaments, ben, il parle pas. Il se met sur le côté. Il est dans ses pensées.
Oui,
il n'y a que quand il a ses médicaments qu'il est dans un état normal.
Tu vois, ça prouve qu'il est malade. Avant, les gens ne connaissaient pas ça, ils n'avaient pas recours à la médecine. Bon, c'était la ralba, il y avait des époques très compliquées pour aller. Les gens ne savaient pas, mais Alfosh, la ralbalium, ils ne connaissaient pas. Donc, on peut comprendre ces époques qui sont des époques désuètes, passées, c'est fini. Aujourd'hui, on sait mettre des noms à des maladies. Donc, la paranoïa, la schizophrénie est une maladie et non. Forme de djinn, etc., comme les gens croient. Faut faire très attention. On a vu des vidéos, hein, dans certains endroits où le gars, tu vois bien qu'il est schizophrène. Il lui apporte un imam. Oui. Et des fois, il lui donne à boire un truc, de l'eau. Et puis, il y en a même qui font une espèce d'exorcisme, comme il en sent passer en France aussi. Il y avait une époque où ils étaient dans l'ignorance, hein. Ils ramenaient des exorcistes qui frappaient avec des bâtons, sort, mais sort quoi? Mesquine, il est malade, il est schizophrène. C'est pas possible. Vous allez lui sortir la vie, il va mourir. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça. Voilà. Je vais te laisser parce qu'on a une pause. Merci, Karim, en tout cas. Merci à toi de ton témoignage. Je t'embrasse. Bonne soirée, Karim. 01-53-48-3000. Ce soir, nous parlons de phénomènes d'expériences paranormales. Allez, une petite pause et on revient tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence. L'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Sans tabou, sans langue de bois, au 01-53-48-3000, chers amis. Eh bien, tout d'abord, avant de prendre un autre appel, permettez-moi d'avoir une pensée vraiment sincère de la part de toute l'équipe de Beurre FM, eh bien, pour cette petite jeune fille, Sihem, qui a disparu, voilà, et de tout cœur avec les parents, et en souhaitant, Inch'Allah, vraiment de tout cœur, prions très fort. Hier soir, j'ai allumé, moi, une bougie, j'espère que chacun a son niveau, hein, chacun sa manière, Marcolo, chacun prie de son côté, avec ses mots à lui, voilà, pour que cette petite jeune fille de 18 ans, hein, eh bien, soit retrouvée, saine et sauve, vraiment. Vraiment, elle a disparu le 25 janvier dernier à la Grand Combe dans le Gard, voilà. Et donc depuis ce jour, eh bien, elle a complètement disparu et on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Et les parents, j'imagine, leur sidération surtout, et puis leur tristesse, leur chagrin, je ne sais quoi dire. Tellement quand on ne sait pas où se trouve son enfant. C'est la pire des tortures. C'est la pire, parce que quand on a un enfant qui est malade, qui décède, etc., c'est terrible, terrible. On en a parlé la semaine dernière, le deuil. On fait jamais le deuil de son enfant. Mais quand un enfant disparaît, on sait pas où il est, comme cette petite jeune fille, c'est vraiment, vraiment quelque chose de terrible pour les parents. De tout cœur, avec les parents de Sihem, prions tous très fort, Inch'Allah, qu'elle soit retrouvée le plus rapidement possible. Vraiment. Voilà, de tout cœur avec Sihem et sa famille. 01-53-48-3000. Eh bien, on a Nadia de Paris et puis on a on a tout le monde qui, voilà, vous êtes tous là, et tant mieux, hein, chers amis. On a Nabil de Paris, Linda, Malika, Rabah. Bonsoir, Nadia.
Bonsoir, Vanessa, comment vas-tu?
Bah, écoute, je vais bien, ma chérie, et toi?
Bah, ça va, ça va, ça va.
Très
ça
bien. Va. Alors?
Alors, moi, j'ai appelé parce que j'ai envie de raconter deux, trois événements, mais assez rapidement pour que les
super
autres puissent passer.
Vas-y.
Comment dire? Alors, il y a eu une fois où j'étais très jeune, je devais avoir 16 ans. Comme tu sais, je m'entends pas vraiment avec ma famille, ma mère, etc. Et
oui,
ma grand-mère, c'était une personne qui était très, très mauvaise avec nous.
Mmh.
La mère de ma mère.
Oui.
Et je devais avoir 16 ans. J'étais allongée dans mon lit et je pensais justement à ma grand-mère tellement qu'elle était mauvaise et je m'imaginais qu'elle était morte.
Oui.
Et je la voyais avec la bouche ouverte. Et ben,
ah,
ça n'a pas manqué. Le lendemain, on apprend son décès.
Waouh.
Je m'en suis voulu. Je me suis dit, c'est moi qui ai fait ça parce qu'on est... Du côté de mon père, ils sont un peu dans la, comment dire, pas des voyants, mais c'est des gens qui font du mal avec la sorcellerie, voilà.
Ah ouais, là c'est
donc
grave.
Voilà, et je me suis dit, est-ce que c'est de ma faute? J'ai pensé à elle en mal, j'ai souhaité sa mort, donc elle est morte. Je m'en suis voulu pendant longtemps, malgré que je l'aimais pas, quoi, en fait. Hein. Et donc voilà, maintenant je m'en veux plus, hein, parce que je sais que c'est les choses de la vie. J'ai eu un rêve aussi une fois. Où j'ai rêvé qu'on m'avait donné un drap, en fait, dans les mains.
Un quoi?
Et quand je me suis réveillée, un drap, un sorte de drap.
De drap,
on m'a
d'accord.
Donné un drap.
Ouais.
Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais punaise, c'est un linceul, en fait. J'ai pris un linceul dans mes mains.
Mmh.
Et j'ai toujours pensé, réfléchi dessus. Je me suis dit, bon, bah, ça veut dire que je vais mourir, j'ai un délai devant moi, je vais mourir. Quelques temps après, mon frère est décédé.
Ouais, ouais. C'est incroyable.
Ouais. Hein. Quelques temps après, mon frère est décédé. C'est celui avec qui je m'entendais très, très bien. J'avais aucun problème. Tous mes secrets, on se parlait de tout, lui et moi, etc. Donc, il est décédé. Et puis, j'ai rêvé de lui. Et je l'avais dit déjà à l'antenne. Non, c'est pas que j'ai rêvé de lui. Tous les ans, en fait, c'est dès qu'on se levait le matin, en fait, soit il m'avait appelé pour me dire Sahar Hildik, ou soit je l'avais appelé pour lui, c'était Sahar Hildik.
Oui.
On s'appelait tout le temps l'un ou l'autre, en premier avant d'appeler les autres.
Oui.
Et quand il est décédé, le premier Eid qui est arrivé, j'ai mon beau-frère qui m'appelle pour me dire Sahar Hildik. Et j'étais dans mon, bah là encore une fois, dans mon lit, et allongée. Et puis je vois apparaître une sorte, c'est pas une étoile, mais en fait c'est comme un rond avec des choses pointues autour. C'était un peu brouillard-heureux et je voyais le visage de mon frère. Et je voyais le visage de mon frère, mais c'était comme son visage, il exprimait, c'était il se montre, mais il ne doit pas se montrer. Il est en train de se montrer, mais qui ne devait pas se montrer. C'était
d'accord,
comme un secret.
Oui,
et
oui,
j'avais hâte de raccrocher avec mon beau-frère pour pouvoir, je ne sais pas moi, s'il y avait un échange ou quelque chose. Je raccroche, il est parti. J'avais rêvé aussi de lui, mon frère, encore une fois, et on parlait beaucoup, parce que lui, il était plus, oui, mais tu sais, la religion, et moi, je suis anti-religion, comme tu sais, hein. Et je lui disais, non, moi, je suis pas d'accord, il y a ça, la femme, il y a ci, il y a ça, donc on avait pas mal ce genre de... Pas mal ce, on échangeait pas mal à ce sujet-là, et j'avais rêvé de lui, et puis je lui dis, je lui dis, maintenant que t'es parti, que t'es plus là, c'est quoi alors? C'est quoi les religions? Ou je sais pas, je parlais avec lui. C'est vrai, c'est pas vrai. Et il m'avait dit c'est éphémère. Et ce mot-là, éphémère, je me pose toujours la question pourquoi il m'a dit c'est éphémère? Parce que éphémère, ça veut dire court, c'est bref.
Ben oui, la vie est éphémère, ma chérie. Déjà.
Oui, c'est ça. Et il me disait c'est éphémère.
On n'est pas là pour durer. Hein.
Oui.
On est que de passage. Hein. C'est nous qui donnons une intensité à la vie et parce qu'on se ment soi-même. Et même si on sait que la mort existe, mais et c'est pour les autres. C'est toujours pour les autres, tu comprends? Voilà.
Oui.
Oh, merci Anthony qui me ramène un bon thé à la menthe fumant.
Mmh.
Et bien mousseux en plus. Oh Anthony, t'es un ange, je t'adore. Et ça, c'est comme ça que ça se boit le thé, hein, Agda, hein.
Exactement.
Sans Sahara, on fait ça.
En plus, je sais que tu l'aimes bien, donc voilà.
Oh, t'es un amour, merci beaucoup.
Je connais
Anthony
par cœur.
Ah, que ferais-je sans toi, comme dit la chanson, mon Anthony.
Ah bah pareil pour moi, je suis perdu. Hein.
Oui, les échanges qu'on a ici, c'est vraiment
riche,
c'est la famille, c'est la famille. Nadia, excuse-moi, je te laisse continuer, ma chérie. Donc.
Oui, donc, j'ai toujours dit, mais c'est éphémère, alors que moi, il sait très bien ce que je voulais lui dire par là. Est-ce que c'est vrai, l'enfer, le paradis, les religions, etc., c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Mais il m'a dit juste, c'est éphémère, il est parti avec deux grandes personnes, très, très grandes, alors que lui, il était petit, au milieu. Et il y a autre chose aussi qui s'est passée. C'est que quand j'avais 18 ans, en fait, mon père voulait bloquer mon frère, un de mes frères, en Algérie. Donc, ils voulaient tous nous mettre, partir là-bas. Moi, j'avais 18 ans, je ne voulais pas y aller, en fait. Et mon père me dit, non, t'en fais pas, tu vas revenir justement avec ton frère, justement avec qui je m'entendais bien.
Ah, oui.
Parce que moi, mon père, je m'entendais très, très bien à l'époque, malgré ce qui s'est passé.
Ouais.
C'est pas que je m'entendais... J'avais quand même de bonnes relations, malgré il m'avait fait des attouchements. J'avais, en fait, comme ma mère était toujours contre moi, en fait, il y avait beaucoup de choses. Donc, bref. Et du coup, il m'a dit, t'en fais pas, non, mais tu vas revenir avec ton frère. Et je lui dis, non, moi, je pars pas. Moi, il y a des questions. Je vais aller faire quoi là-bas? Je suis en l'été. À chaque fois, je vais l'été là-bas. Je suis en prison. J'ai l'impression d'être en prison. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Il me dit, non, c'est juste pour que tu les accompagnes. Donc, moi, à ce moment-là, j'avais pas ça encore ma pièce d'identité française. Il fallait pour revenir tout seul ou il faut une autorisation de sortie de territoire, en fait.
Oui.
Voilà. Et donc, mon père, il me ramène, il me dit, ben non, mais tiens, la preuve. Je l'ai fait pour toi et ton frère. Vous allez revenir. Vous les accompagnez, vous restez l'été là-bas, etc. Et je lui disais, non, pourquoi? Parce que, bon, bah voilà, je ne m'entends pas avec la famille, ça se passe mal, je suis en prison là-bas. En plus, quand je reviens, tu es là en train de me questionner, il faut que je te raconte toutes les vacances, il faut surveiller maman. Moi, ça ne m'intéresse pas, tout ça. Et puis finalement, bah, je suis partie avec eux. Et quand je suis partie là-bas, en Algérie, j'ai ma mère qui commence, qui me dit, bah, soit tu te maries avec lui ou avec lui. Je lui dis, bah attends, moi je me marie ni avec mon cousin ni avec le voisin, normalement. Donc je lui dis non, il me dit, ah bah si, elle m'a dit, ça va se passer comme ça. Je lui dis, bah ok, très bien, on va voir papa quand il va venir. Parce que mon père, il devait venir justement.
Mmh.
Il venait toujours en fait. Quand on partait, il venait toujours. Et je m'en souviens que quand on partait en vacances, quand il venait, il disait, je vous veux à la maison. Pas que je vous cherche après vous. Parce que lui, il avait peur que ma mère justement nous marie derrière lui. Sans qu'il le sache.
Oh oui, et donc
voilà. Donc voilà. Et du coup, mon père, il vient, et moi, j'ai commencé à prendre peur. Et donc, mon père, quand il vient nous voir, il me dit, bon, alors, tu rentres avec ton frère, est-ce que tu veux rester? Moi, je te dis, moi, c'est mieux que tu restes, etc. Je dis, non, écoute, moi, j'ai pris peur, mais moi, je me suis préparée avant de partir. En fait, si tu veux, je suis partie avec de l'argent, mon passeport, je l'avais, j'avais tout gardé, je me suis organisée en me disant, si jamais je me retrouve bloquée là-bas, eh ben, que je puisse revenir. Hein.
Oui.
Et donc j'y vais et puis je me suis dit tiens, et là je manque de confiance en mon père parce que je savais quand même un peu qui il était. J'ai dit bah écoute non, moi tu m'inscris dans une école de stylisme et c'est bon, je reste ici. Donc quelque part je lui ai menti, c'est vrai, je l'ai trahi, c'est vrai. Et du coup bah je m'organise avec quelqu'un, j'ai mon billet d'avion pour rentrer le 26 août, etc. C'était un vol à 4h25 et voilà, il avait un peu de retard. Et entre-temps, on doit descendre en Kabylie. On était à Babassoune, on devait descendre en Kabylie. Et ma mère, elle vient me voir, elle monte, elle me dit, tiens, il y a des œufs, tu te laves les mains dedans, avant de dormir. Hein. Le lendemain, on devait partir en Kabylie. Et moi, j'étais là, mince, moi, le 26, j'ai mon vol. Mon père, il partait quelques jours avant, alors que moi, je devais... Personne ne savait que j'avais déjà mon billet de retour,
ton billet,
le 26, j'avais tout préparé. Hein.
Oui.
Et je me suis dit, mince, comment on va faire si je me retrouve bloquée en Kabylie? Là, il faut que je contacte la personne avec qui, pour qu'elle vienne me chercher en Kabylie, ou je sais pas comment, il faudrait que je trouve une solution.
Ouais.
Donc ma mère, elle monte la veille, elle me dit, tu laves tes mains dans les œufs, tu les mets sous ton lit, et tu dors avec cette chemise de nuit qui est propre.
C'est bizarre, ça.
Okay, d'accord.
Les œufs sous
donc,
ton lit?
Je dors avec la chemise de nuit, je fais, hein, voilà, je fais.
C'est pourquoi, ça?
La chemise de nuit, le matin, elle monte. Elle me dit, bah écoute, parce qu'en fait, moi, j'avais tout le dernier étage pour moi toute seule.
Oui, je sais bien, mais pourquoi cette histoire d'œufs sous ton lit? Enfin, j'ai pas compris ça.
Non, mais je vais t'expliquer. Tu vas comprendre là. Tu vas comprendre. Donc,
c'était pour que tu les couvres. Elle pensait que t'allais faire des petits poussins ou quoi? T'es pas une poule. Hein.
Non, c'est parce qu'elle allait nous emmener. Parce qu'en fait, dans leur projet, ils allaient nous emmener chez une voyante. Mais moi, j'avais pas compris le truc.
Ah,
mais je vais t'expliquer ce qui s'est passé. J'avais pas compris, je connaissais pas en fait.
Ouais.
Donc ma mère le lendemain matin, elle se lève, donc elle vient me voir, elle me dit t'es prête, elle me parle méchamment et tout. Je lui dis bah écoute, ouais. Elle me dit ils sont où les œufs? Je lui dis ils sont sous le lit. Donc, elle prend les œufs, elle me dit, elle est où la chemise de nuit? Donc, je lui dis, bah, elle est là. Donc, elle prend la chemise. Elle me dit, tu mets les œufs dans la chemise de nuit et tu les descends, tu le mets dans le coffre à ton père. Donc, je fais ce qu'elle dit, je mets les œufs. Bon, moi, je voulais faire toutes les choses bien pour pas me faire remarquer. Je savais que j'avais mon vol. Voilà.
Et alors, vas-y. Partir, ça, voilà.
Donc, je prends les œufs, je mets ça dans la chemise de nuit, je les mets dans le coffre. Et donc, eux, il y avait déjà les affaires. Donc, il n'y avait que moi, la dernière, à mettre mes œufs dans le coffre. Donc, je mets mes œufs comme ça.
Mon Dieu, quel gâchis.
On descend, ouais. Bah, tu sais, dans le coffre, bah, les œufs sont cassés.
Ah bah oui.
Donc, les œufs sont cassés. Bah, hey, moi, je ne connais pas. Hein,
ouais, ouais.
Pas
et donc, hein. Les œufs sont cassés. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il en est sorti?
Donc, on est parti. On descend en Kabylie. Donc, ils se rendent compte que les œufs sont cassés. Donc, ma mère, elle pète son câble. Mon père, il dit, c'est pas grave. Et on va voir. Et je lui dis, mais on va, c'est où, c'est quoi? Je vois plein de gens devant une maison. Je sais qu'on va pas chez nous en Kabylie. Je me dis, où est-ce qu'on va, quoi? Et là, je prends peur. Je vois plein de gens. Et puis, on dépasse tout le monde. Mmh. Vraiment, hein, Vanessa.
Donc, oui, enfin, ça, c'est classique. Vous avez été voir. On voit ça au bled. Elle t'a emmené voir.
Donc, on dépasse tout le monde.
Elle t'a emmené voir une. Ouais. Voilà, une voyante ou un voyant, je sais pas, enfin, voilà. Quelqu'un qui...
Ouais, mais normalement, c'est chacun son tour, on n'est pas les gens.
Ou des gens qui te font
des trucs, c'est des gens, bon, voilà.
Voilà, non, mais ça, oui. Et alors? Mais ça, c'est pas des expériences paranormales, là. Hein. Là,
on est sorti du contexte. C'est bizarre ce qui s'est passé, en fait. Donc, alors. On rentre dedans. La dame, elle commence, elle parle. Elle discute, en fait, elle discute avec ma mère. Donc, ma mère, elle lui donne les œufs. Et puis, elle commence à me parler. Moi, je reste muette, je ne parle pas. Je ne dis rien. Je ne sors pas un mot, Vanessa. Hein.
Et qu'est-ce qu'elle fait?
Je n'ai pas envie de parler avec elle. Mmh. Ça ne me plaisait pas là où on était. C'est pour moi, on m'a fait un coup. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, parce qu'en plus, je suis forte de tête. Moi, je suis vraiment, quand j'ai un truc dans la tête, c'est dans la tête. Donc, moi, je ne parle pas. Et elle me dit, elle dit, c'est pas grave, etc. Et puis, elle me dit, ce que tu veux, tu vas l'avoir. Mais boum! Et elle dit à ma mère, faut la surveiller. Et moi, je me dis, punaise, elle lui dit de me surveiller alors que moi, je dois partir. Et ce que je veux, je vais l'avoir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et le truc boum, j'ai pas prêté attention tout de suite, en fait. Et donc, elle prend la chemise de nuit de ma mère. Ma mère, elle se penche, elle lui met sur le dos. Et ma mère, elle commence à rôter, à faire des bruits bizarres, etc. Et je vois la chemise de nuit de ma mère en train de bouger. Il y avait des bruits dedans. Et je dis à mon père, mais c'est quoi ça, papa? Elle me dit, t'as peur? Je lui dis, non, j'ai pas peur, mais c'est quoi ce truc? Elle me dit, c'est comme ça. Je lui dis, ah, ok, c'est comme ça. Et moi, je commence à repenser. Je me dis, tiens, elle m'a dit, je vais réussir. Ce que je veux. Pour moi, je veux partir de l'Algérie. Je n'ai pas envie d'être bloquée en Algérie. Il faut que je rentre en France. Elle me dit, boum. Et elle dit à ma mère de surveiller. Donc moi, j'ai que ça qui tourne dans la tête. Je tourne, ça tourne. Et on s'en va. Donc, elle ouvre la chemise de nuit et on voit les œufs cassés. Il y avait plein de semoules, des cheveux, des trucs.
Oui, enfin, ça, c'est elle l'avait déjà et elle est. Elle les avait déjà, la semoule. Ouais, les cheveux, oui, enfin bon, ça c'est. Bon, elle doit avoir un sac avec tout ça, c'est un tour de passe-passe là. Là on est.
Oui, voilà. Ah oui. Donc on part, reste les 2-3 jours et on remonte sur Alger.
On aurait été en Alsace, t'aurais trouvé dedans de la choucroute, du chou. C'est très culturel tout ça, la semoule. Oui, non mais je sais, mais c'est.
Après,
ça c'est des tours de passe-passe, ça c'est pas possible. Tu comprends, trouver de la semoule, des cheveux, là c'est plus un don. Là, c'est encore autre chose, là. Ça, c'est...
Ouais. Attends.
C'est l'illusion.
On remonte sur Alger, à Babassène, on rentre chez nous. Mon père, il me dit, ton billet d'avion, il est là. Le billet de ton frère, il est là. Qu'en fait, il m'avait tout donné. Il m'a dit, et moi, je me suis dit, il est en train de me tester. Donc, je n'ai pas confiance en lui. Tout en sachant que j'avais un autre billet d'avion. Je devais partir avant.
Alors, fais rapide, avant qu'on soit coupé.
Donc,
Nadia.
On s'en va. Donc, ouais. On reste. Donc, moi, je fais tout mon cinéma pour sortir de la villa parce que j'avais un vol à 4h25. Ouais. Et quand il avait un peu de retard, et ben, tu sais que l'aéroport d'Alger, elle a sauté. C'était le boom de ce qu'elle m'avait dit.
Ah, bah, terrible. Voilà. Hein. Terrible.
Non, mais je t'assure, c'est vrai. Hein.
Ah, mais je te crois. Je te crois parce qu'il y a des gens qui ont des dons. Ah non, mais moi, je te crois. Il y a des médiums, hein. Ça, je crois en la médiumnité. Ça, j'y crois. Vraiment.
Voilà.
C'est les trucs de passe-passe, là, qui me gênent, tu vois, les œufs, machin. On n'utilise pas des denrées alimentaires.
Non, mais ça, c'est réel, c'est
non.
réel. Moi, je peux pas.
Non, mais attends. Oui, mais moi, je suis contre ça. Parce que, on n'utilise pas des denrées alimentaires. Il y a des gens qui meurent de faim dans le monde.
Oui,
pour
sais,
jouer avec des aliments, ça c'est un truc, bon, ça me dérange. Sinon pour le reste, oui, effectivement, la médiumnité, moi j'y crois et il y a des gens qui ont un don et cette femme probablement elle avait un don parce qu'elle t'a dit boum etc et elle t'a dit des choses qui se sont réalisées.
Elle m'a dit que je vais réussir
ça,
ce que je voulais, ce que j'avais au fond de moi,
ça, j'y crois.
Je ne parlais pas du tout, je voulais pas parler avec elle en fait.
Bah écoute, franchement,
elle m'a dit que je vais réussir, elle m'a dit boum et elle a dit à ma mère de me surveiller.
Ah bah écoute. Hein, ça s'est réalisé. Nadia, merci. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir parlé de tes expériences, ton histoire qui sont franchement très intéressantes et on est en plein dans le sujet. Bravo, grâce à toi. Je t'embrasse fort, Nadia. À bientôt, ma chérie. Très intéressant. Mais c'est vrai, moi, je crois aussi en la médiumnité. Je sais qu'il y a des personnes qui ont un don qui. C'est un don. Tout le monde ne l'a pas. Il y en a qui pensent l'avoir et qui ne l'ont pas. Mais en réalité, le don, il y en a qui l'ont. Voilà. C'est vrai. Alors, 01 53 48 3000, on a Linda qui nous appelle de Paris. Bonsoir Linda.
Hello.
Et Nabil après.
Bonsoir Valérie.
Bonsoir Linda.
Ça va, tu vas bien?
On t'entend très mal. Bah non, on t'entend pas. Linda, on t'entend plus. Je sais pas ce qui se passe avec ton téléphone, non, je te vois même plus, gars. Linda, reviens. Nanana, nanana. Malika du 92 en attendant que Linda revienne. Mais Linda, essaye de changer peut-être de pièce ou essaye de zone. Peut-être que tu ne peux pas capter de là où tu es. 01 53 48 3000. Malika nous appelle du 92. Bonsoir Malika. Malika, oui, je disais Linda. Je suis restée fixée sur Linda. Bloquée sur Linda. Bonsoir Malika. Malika du 92. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonsoir Malika.
Oui, bonsoir Vanessa, bonsoir tout le monde.
Bienvenue à toi Malika.
J'ai pris l'émission en cours.
Oui.
J'avais entendu le jeune homme, vous savez, sur la maladie de...
Oui, parce que ce soir on parle de phénomènes paranormaux.
C'est-à-dire que quand ils nous lisent le Coran...
Ah oui, l'Aloria, non, mais il y a des personnes qui sont schizophrènes. Il faut arrêter avec ça, lire le Coran, des personnes qui sont schizophrènes.
Mais après, je vais vous...
Ouais.
Si vous pouvez expliquer, parce que moi, je...
Malade, il a besoin de médecin.
Fille, ouais. Mais pourquoi que... Moi, j'ai connu quelqu'un, c'est une jeune fille. Bon, maintenant, ça fait 10 ans qu'elle est malade. Mais pourquoi, quand elle parlait, elle se mettait dans son coin au fond, dans le noir, mais elle avait une voix d'homme, elle se transformait.
La schizophrénie peut mener à ça. Et... T'as la voix qui se transforme. Même l'apparence. Il y a des personnes. La voix, elle se transforme. Et comme c'est culturel, on leur dit déjà, c'est dans leur tête. Mais t'as des personnes dans toutes les cultures. Hein. Tu peux regarder des vidéos aujourd'hui, heureusement, grâce à la technique. Au moins, on sera moins Johelia. Grâce à la technique, alhamdoulilah, on a la technologie moderne aujourd'hui. Allez voir des vidéos dans le monde entier, que ce soit chez les Indiens, que ce soit en Asie, partout. Ce genre de maladie, eh bien, transforme la personne, même sa voix, elle se transforme. Cette personne, elle devient, elle sort d'elle-même. Il y a même des films, l'exorcisme, etc. Mais ça, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des personnes qui sortent de ce qu'elles sont. Et elle se transforme, même la voix, elle se transforme. Et elles sont comme il y a des personnages en elle et tout. Mais c'est la maladie qui veut ça. La schizophrénie, tu as l'impression d'être plusieurs personnes à la fois. Et tu as l'impression que il y a des voix, des gens qui s'adressent à toi. Moi, j'ai connu des personnes quand tu regardais la télévision, elles imitaient les voix des gens à la télé en disant mais regarde-le, il est en train de s'adresser à moi. Le présentateur, le journaliste, il fait son journal, télé normal.
Oui,
et elle, la personne, elle croit que c'est pour elle. Ah oui, le président, il va parler, elle dit c'est pour elle. Donc elle prend la voix de ces personnes et elle se transforme. Et t'as l'impression que c'est une voix rock d'homme et t'as des hommes qui se féminisent. Et ça, c'est la schizophrénie, c'est la maladie, Belaki. Hein. C'est la maladie, hein. Faut faire très attention.
Oui,
emmenez vos enfants chez des médecins.
Elle était... Elle était violente, prête à je veux dire que prenait un grand couteau prêt à,
oui,
prêt à tuer.
Ah oui, oui. Il y a des formes de schizophrénie, très, oui, il y a plusieurs formes. Hein. Il y a, oui, des maladies mentales, on va dire ça comme ça parce qu'on n'est, ouais, pas médecin, où la personne, violente, elle devient violente.
C'est très, très violente.
Oui,
très
violente. Oui, ouais. Ben, il y a des personnes, ouais, qui, faut faire très, il y a des personnes qui ont même tué. Dernière, je sais plus, sur, il y a quelqu'un, un gamin. Un adolescent qui a tué, je crois, sa mère et sa sœur, tout ça, parce qu'il pensait que c'était des diables ou je sais pas quoi, des intrus, voilà. Mais et il ne sait tueur, plus qui ils sont.
Elle en voulait.
C'est la maladie.
Oui, mais cette fille-là, elle en voulait beaucoup à sa mère.
Oui, parce que sa mère, c'est la personne la plus proche.
Je sais pas pourquoi.
Bah, c'est la personne la plus proche. C'est sa mère. Ça aurait été son frère.
Oui, mais
ou son
pourtant.
Père.
Non, pourtant elle avait ses frères à côté et,
oui,
elle voulait que tuer sa mère.
Eh oui,
sa mère.
Oui, oui. Elle a fait une fixette.
Elle ne touchait pas.
Elle a fait une. Elle a fait une fixation. Elle a fait une fixation sur sa mère. Un schizophrène. Ouais. Un schizophrène. Ouais. Quelqu'un de vraiment, mmh, violent. Je ne parle pas de la schizophrénie légère. Il y a plusieurs, mmh, pathologies. Il y a plusieurs. Mmh. Hein, c'est dans cette pathologie. Attention. Hein. Il y a des schizophrènes très gentils, très doux. Il n'y a pas de souci. Mais, mmh, il y a plusieurs formes. Et t'en as qui ont une. Qui développent une pathologie sévère, et ceux-là, eh ben, ils vont faire une fixation sur une personne, pas sur 10, sur une personne, et, oui, ils vont jusqu'au bout.
Sur
c'est comme ça.
Personne, ouais.
Ah ben oui, tu vois bien, mmh, regarde, il y en a, mmh, eh ben, ils vont, ils se font une idée sur un personnage public, et ils lui en veulent. Alors qu'il ne les connaît pas, ils l'ont vu peut-être à la télé, ils lui en veulent. Et ils vont jusqu'à le poursuivre, vouloir attenter à sa vie, etc. Une fixette. C'est la maladie qui fait ça. C'est la maladie. C'est comme ça, c'est la maladie.
Alors, il y a une fois, ils lui ont ramené un Coran, mais ce Coran-là, elle l'a brûlé. Elle l'a brûlé.
Ah, ben, tu peux lui ramener la Bible ou tu peux lui ramener, je sais pas, le petit, ouais, chaperon rouge.
Ouais, non, mais pour ouais, la calmer, pour la...
Eh ben là, on lui ramène le Coran pour la calmer. Emmenez-la, un tbé, bien arbé, je suis le médecin. Voilà.
Non, mais ça dépasse, un état, je veux dire qu'ils n'ont jamais connu ça.
Et oui, c'est dommage, hein, vraiment. Il y a combien de vies qui sont parties, ouais, comme ça dans l'ignorance. C'est triste. Hein. Et oui, parce que ça, ouais, c'est l'ignorance. Mais quand, en France aussi, avant, tu sais. Mais je te parle de ça il y a très longtemps. Ils ramenaient des pour ces maladies mentales au lieu de ramener des médecins. Ils savaient,
ouais,
pas. Il y avait pas
rappelle,
des.
Ouais,
non, mais tu peux pas te rappeler parce que moi, je me rappelle pas. C'était. Je te parle de temps révolu, ma chérie.
Si, moi j'ai connu.
Au XXe siècle.
Un aussi, il faisait des crises comme ça. Ah oui, mais c'est dans les années 70.
Oui.
Dans les années 70, moi j'en ai connu un aussi, il faisait des crises pareilles. On pensait qu'il était malade aussi.
Alors.
Et on lui avait ramené, vous savez, genre de imam qui lui récitait le Coran. Et chacun, ils étaient quatre femmes, tenait chacun un bras, chacun.
Oh là là, mon Dieu.
Ils étaient quatre sur lui.
Oh là là, quelle,
ouais,
horreur, Mskine.
Ah, mais ils savaient pas quand vous avez.
Ouais, avant, ils savaient pas. Non. Même, alors, ouais, je te dis, ouais, même dans d'autres cultures que la nôtre, parce qu'il n'y a pas que nous, attention, hein, dans d'autres cultures qui étaient, mmh, dans l'ignorance, ouais, aussi, hein, même en France, en Europe, eh bien, et qui, mmh, ne connaissaient pas les années, par exemple, 20, 30, 40, 50, ils ne connaissaient pas. Il n'y avait pas de psychiatre, ils ne savaient même pas ce que c'était. Alors, tu vois ce que je veux dire? Donc, ils n'avaient même pas de quoi soigner. Mmh. En France, en Europe, chez les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, quand il y avait un malade comme ça, de cette forme-là, eh bien, ils appelaient un prêtre ou ils mettaient la croix bénie, de l'eau bénite, et ils ramenaient aussi des exorcistes. Ils leur faisaient des séances d'exorcisme. Et pareil, hein, ils les frappaient, ils disaient sort, ils croyaient qu'ils étaient habités par le diable.
Mmh, oui, voilà.
Pareil, c'est à l'identique. Et ça, c'est dans toutes les cultures. C'est pas que chez nous, hein. C'est dans toutes les cultures. Avant, les gens étaient dans l'ignorance. Malheureusement, ces pauvres malades n'ont pas été pris vraiment comme il fallait et soignés comme il fallait parce qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas l'arelbe, hein. Mais aujourd'hui, ce que je veux dire, avant, on pouvait pas leur en vouloir, l'arelbe. Mais aujourd'hui, en 2023, on sait. On sait que c'est une maladie ou c'est des maladies. Donc on n'a pas le droit de passer à côté et de leur ramener des prêtres ou des imams. Non, faut être sérieux. Ramenez-le chez le médecin, ce malade. Il va le soigner, un psychiatre.
Ouais, mais après, comme ils ont suivi les parents, donc.
Eh ben, il faut pas les suivre.
Ils ont gardé ça, voilà.
Il faut pas les suivre. Alors, celui que son père, ça a été un truand de grand chemin qui égorgeait les gens. Lui aussi, il va se mettre à égorger parce que son père était égorgeur. Ben non.
Non,
mais je vais à l'extrême.
La maman, là, je Non, je parle de la maman que la fille qui voulait la, qui lui en voulait. Je veux dire, ses parents à elle lui ont transmis, voilà. C'est-à-dire que c'est sa grand-mère, si vous voulez.
D'accord, la grand-mère Mskena, elle est d'un autre temps, elle est Tazmen. Mais c'est à vous, les jeunes, de voilà. dire non. Non, madame. Non, oui, cet enfant est malade. Il faut lui dire, il faut le ramener chez un médecin. Il faut dire, madame, non, c'est pas comme ça que ça se passe, mais ça, c'est ta grand-mère.
Elle est suivie, puis elle a des médicaments à
vie. Ah, alhamdoulilah, voilà. Ouais. Ouais, tout oui, se termine est, bien.
Maintenant, donc, après, quand ils l'ont pris, c'est vrai qu'ils l'ont gardé quelque temps, mais elle a un traitement à vie. Ouais. Mmh. Ouais. Mais elle dort beaucoup, elle dort beaucoup et elle n'a pas la notion du temps. Donc,
C'est du lourd. Rabbi Jiblash, Inch'Allah, vraiment.
C'est beaucoup du lourd, ouais.
Ah, c'est vraiment du lourd, hein. Ouais. En tout cas, on lui souhaite un propre rétablissement. Et ce soir, beaucoup se reconnaîtront dans ce qu'on dit. Et c'est pour ça que je profite de cette émission pour dire pas de confusion. Là, quand on parle de phénomène paranormal, ça peut être des rêves prémonitoires. Bon, ça, c'est un peu rigolo, hein. On est curieux. Voilà, on nous parle d'OVNI. Ah bah ouais, ça aussi, c'est important. C'est, voilà. Des apparitions. Moi, j'y crois aussi aux apparitions, hein. Moi, j'y crois parce que j'en ai eu dans ma vie des apparitions.
Moi, j'y crois. J'en ai eu, moi.
C'est vrai? Bah, raconte!
J'en ai eu. Non, mais après c'est pas vraiment. Je sais pas si vous allez m'expliquer, parce que moi quand j'ai perdu mon frère à 20 ans, deux jours après ou le lendemain, on avait un couloir et dans le couloir il y avait dans la chambre de mes parents, je crois, oui, il y avait un cercueil, mais il était vide et j'ai vu, comme vous savez, au bout du cercueil comme un diamant. Ça veut dire quoi? Qui brillait.
Comment ça? Je n'ai pas compris.
Lendemain, on va dire peut-être lendemain ou deux jours après son décès.
Oui.
Dans la chambre de mes parents, il y avait un cercueil, mais ouvert. Et c'était tout noir, il n'y avait pas le corps de mon frère.
C'était une apparition, c'était un rêve? C'était un rêve, Malika?
Non, pour moi, c'est comme c'était une réalité.
C'était, t'étais dans le semi-sommeil. Tu dormais pas en même temps.
Oui, semi-sommeil. Voilà, c'est ça exactement.
Et tu as vu dans le cercueil, tu as vu le cercueil, mais il était vide.
Il n'y avait pas mon frère. C'est juste le cercueil ouvert avec un comme un diamant au bout.
Mais écoute,
où il y a la tête.
Là, ah oui.
J'ai vu comme un diamant qui brillait.
Et ça t'a réveillé d'un coup?
J'ai jamais compris.
Ça t'a réveillé?
Ah oui, j'en avais peur, bien sûr.
Ouais. Ouais. Oui, ça peut être rassurant aussi. Parce que comment c'est pas tout? Comment c'est pas tout? Peut-être que ton frère, peut-être que c'est un bon signe, on t'a envoyé un signe. Tu vois? Peut-être que ton frère est bien diamant, ça dit bien ce que ça veut dire. Peut-être qu'il est dans une belle dimension. Voilà. Moi, je vois ça comme ça.
Voilà.
C'est une.
Et pareil pour mon père.
C'est un message. Et ton père?
Pareil, comme j'ai perdu ça, parce que les deux, ils sont morts. Comme je sais pas si je vous ai raconté une autre histoire, les deux, ils sont morts accidentés. Vous vous rappelez?
Oui, on a l'ayahmo, moi, ouais, c'est terrible ça.
Ouais, ils sont morts accidentés. Et lui, pareil, il a été éjecté, comme je vous avais dit, à 200 mètres, il est mort sur le coup. Et peut-être, on va dire une semaine après, bon, je dormais avec ma mère. Et je l'ai vu apparaître, pareil, devant moi. Un bel homme, bien habillé, souriant, avec la cape. Vous savez, le bolnos de chez nous.
Bolnos, là.
Souriant. Mais j'avais les yeux ouverts, il était devant moi. Et seulement, j'avais peur, je ne voulais pas réveiller ma mère.
Et ça, on l'entend souvent, ça, ces apparitions de personnes qui sont décédées, qu'on voit.
Oui, il est
apparu, ou alors au pied du lit, ouverts. Ou dans la chambre. Oui, c'est vrai, ça, on l'entend.
Oui, bah, il était au pied du lit.
C'est
au
incroyable.
Au pied du lit, il m'a apparu dans la nuit. Au pied du lit, ouais. Et debout, souriant, très grand, parce qu'il était très grand.
Oui.
Vous savez, avec le bornos de chez nous.
Bornos, ah oui, c'est magnifique. C'est magnifique, ouais, le bornos. Ah oui. Ça donne une allure, ce bornos. Ah oui.
Ouais,
il y a le burnous blanc. Alors, il y a le burnous blanc qui est dans les montagnes, etc. Qui est juste magnifique, majestueux, qui donne une allure aux hommes. Il y a aussi le burnous noir que portait justement, qui a mis à la mode. Et d'ailleurs, je l'avais acheté. J'en ai toujours un chez moi. J'ai toujours eu un burnous noir tout le temps. Avant, j'en mettais. Et là, j'ai acheté un nouveau il y a quelques années. Il est plié, mais je pense le mettre un jour. Et j'ai, de tout temps, je voulais mettre un burnous noir parce que je trouvais que c'était le président de la Yarahmo, le Hawari Ibn Medine, qui le portait et ça lui allait, mais alors ça lui donnait une allure. En plus, il avait une allure très fière, cet homme. Hein. Donc ça lui donnait une super allure. Et puis depuis, j'ai toujours un burnous noir. Mais c'est vrai que le burnous blanc, c'est traditionnel dans les montagnes en Algérie. Et ton grand-père qui le portait est venu te visiter.
Voilà, et il m'est apparu, quand je lui ai dit, j'étais allongée, il m'est apparu au pied du lit.
Tu sais ce que c'est le symbole, moi, que je vois dans le burnous blanc de nos parents, nos grands-pères qui mettaient dans les montagnes? Eh bien, c'est le symbole, d'abord blanc, c'est la pureté, mais c'est le symbole de la protection. Parce que quand une jeune fille, chez nous, dans plusieurs régions d'Algérie, quand une jeune fille, elle se marie, quand elle sort de la maison de ses parents, quand elle franchit le seuil, elle le franchit sous le pan du burnous de son papa qui l'enlace, qui la met sous son burnous. Et il la sort comme ça. Taht al-burnous ta babaha, sous le burnous de son père. Et ça, c'est la protection. Il l'accompagne jusqu'à sa... Voilà, elle sort avec la protection de son père. Voilà le symbole. Donc, ça veut dire que dire que tu es protégée par ton grand-père. C'est une protection, Malika. C'est beau, hein?
Par mon grand-père, non, c'est bon.
Ton père, pardon. C'est beau, c'est magnifique.
Ouais.
C'est un bon présage, en tout cas, Malika. Malika, je t'embrasse.
Voilà. Ouais.
Je te fais de gros bisous, ma chérie. Ouais.
Merci, Vanessa.
Merci à toi. C'est des beaux témoignages. C'est magnifique. Mais cette histoire de burnous, je trouve ça beau. C'est vrai. Là, tous, vous écoutez, vous avez tous un grand-père. Même vos pères, ils doivent avoir un burnous à la maison qui lui a été donné par son grand-père, qui sont faits en laine de mouton, etc. Fulbled. Regardez dans les montagnes, soit en Kabylie ou ailleurs en Algérie, dans toutes les régions, ils ont le burnous. Et ça, c'est la protection. Eh oui, moi, je trouve ça magnifique. On devrait garder ces traditions. Moi, je suis pour les traditions. Linda, elle nous appelle de Paris. Bonsoir, Linda.
Bonsoir Vanessa.
Bonsoir ma chérie, t'as disparu tout à l'heure. Je te disais allô, allô, d'un seul coup, allô.
Oui, j'ai pas compris.
Ouais, moi non plus. Ben voilà, là je t'entends bien.
Oui, t'as mieux.
Eh ben écoute, très bien. Et toi, ça me fait plaisir de t'entendre ma chérie, vraiment.
Oui, ça fait longtemps, moi aussi ça me fait plaisir. Voilà. Le sujet d'aujourd'hui, il est pas mal, parce que moi aussi j'ai vécu pas mal de d'histoires comme ça. Et j'en ai vu aussi, t'as vu la dame qui t'a appelé à l'instant, qui parlait de...
Malika,
j'ai commencé d'abord par ce qui m'est arrivé à moi.
Oui, raconte.
Et après, on parlera des autres. Alors, moi, quand j'étais jeune, quand j'habitais toute seule sur Paris, à chaque fois que je changeais d'appartement, il y avait des bruits. La nuit, il y avait une fois même, j'avais un chat, j'ai mon chat que j'ai ramené d'Algérie. Tout va bien, tout ça, mais dès que j'étais à la lumière, il y a du bruit dans la cuisine, ça bouge, ça. Et moi, à chaque fois, j'étais tellement fatiguée que j'essayais de ne pas. Au début, j'avais un peu peur, mais après, j'ai pris l'habitude. Et des fois, je me disais, c'est peut-être moi qui est parano.
C'était quoi comme sorte de bruit?
C'était des personnes qui bougeaient dans la cuisine comme si on faisait le ménage.
Et tu entendais les pas, tu entendais, qu'est-ce que tu entendais exactement?
J'entendais des personnes qui faisaient la vaisselle, par exemple.
Ah ouais?
Qui essayaient d'allumer un truc. Enfin, voilà. Et au début, j'allumais la lumière.
Et c'est pas chez... Alors attends, parce que beaucoup se posaient... Moi, je te pose des questions que les auditeurs se posent là actuellement. Alors, est-ce que... tu as peut-être des voisins qui la nuit font leur ménage et les murs parfois ils sont pas si épais. Est-ce que ça pourrait pas?
Je vais te répondre.
Alors justement, vas-y.
Oui, c'était dans différents appartements parce que j'ai habité un peu partout. Tu sais, j'étais jeune, donc j'habitais dans le 12e arrondissement au début, dans une sorte de c'est une résidence pour les jeunes travailleurs tout ça. Et là, je pensais que c'était un rat. Tu vois, donc j'ai fait tout un scandale, je disais oui, c'est un rat, j'ai un rat dans ma chambre et tout. Le gardien, il vient, il l'ouvre, il trouve pas. C'était vraiment, même je prenais même ma douche chez la voisine d'en face.
Ah oui, t'étais persuadée que c'était un rat.
Et ça bougeait tellement fort. C'est dommage incroyable. Qu'il n'y avait pas le téléphone pour enregistrer et tout ça.
Oui.
Et voilà, donc il y avait ça. Ça, c'était au tout début. Et après, j'ai emménagé à Bonneuil-sur-Marne. Et c'est là que j'avais mon chat. Et là, c'était un pavillon et j'avais un petit studio dans un pavillon. Et c'est pareil, il n'y avait personne.
Les mêmes bruits.
Les mêmes bruits, Vanessa.
Ah ouais,
les
c'est
mêmes
incroyable.
Bruits. Et après, je suis allée encore dans le 12e, à Montgalet.
Oui.
C'était un petit studio. Bah, c'était pareil. Là, je me souviens, un soir, j'avais un examen et je révisais tard. Et dès que j'ai éteint la lumière, ça a commencé les bruits. Et là, j'ai dit, oh, ça suffit, là, je suis fatiguée. J'ai éteint. Là, c'est vrai, il n'y avait plus de bruit, ça s'est arrêté. Et après, quand je me suis mariée, on a pris l'appartement dans lequel je suis. Et ben, il y avait du bruit. Et là, il y avait mon mari avec moi. Et je te promets que quand j'allais dormir chez mes parents, il m'appelait et il me disait, et dis à tes potes d'arrêter, parce que là, je suis fatiguée.
Tellement tu t'es habituée à ces bruits. Du coup, il n'y avait plus de frayeur, quoi. Tu t'es...
Non, rien du tout. Une fois, je me souviens...
Mais ça a une explication, quand même. Alors, Linda, ne pars pas, parce que ton histoire, elle est... Non, tu restes. Oui. Elle est hyper intéressante. Tu me promets de ne pas bouger, parce qu'on a une pause. Tu sais comment ça se passe en radio.
Ça va.
Tu pars pas, Linda, hein, parce que c'est très intéressant. On veut connaître la suite. Merci, Linda. À tout de suite. 01-53-48.
Confidence revient dans un instant.
Amel Bent et Attic, quelle belle chanson. 1, 2, 3, et juste avant, Chez Mamie. Voilà, Chez Mamie, c'était quoi déjà le titre? Je sais plus, mais en tout cas, c'était une super chanson de Chez Mamie. Voilà, 01, 53, 48, 3000
je
ce soir.
Je crois que c'est... alors, j'ai une prononciation...
c'est pas grave, la première
alors,
chanson.
Alors, c'est Doua Alia.
Doua Alia.
Voilà, tu prononces mieux que moi, je te laisserai prononcer.
Voilà. C'est bien. Non, mais tu l'as bien dit. Alors, on va reprendre avec Linda et les phénomènes, hein, les phénomènes paranormaux, des expériences. On a tous connu. Et son histoire, Linda, elle est très intéressante. Oui, Linda.
Oui.
merci d'avoir patienté.
Avec plaisir.
Alors, donc.
Voilà, donc
c'est incroyable parce que finalement, de ce qu'on peut comprendre, c'est que ces bruits, enfin, je sais pas d'où ils viennent, je sais pas comment les nommer, ces entités, on va dire les entités, je sais pas, eh bien, s'adressent à toi, particulièrement, puisqu'on te suit d'une maison ou d'un appartement à un autre, voilà, de toutes tes habitations, c'est pas l'habitation par elle-même qui pourrait, entre guillemets, être hantée, c'est pas toi qui es hantée, mais ça te suit.
Et je te raconte, un soir, j'avais 19 ans.
Oui.
J'étais avec ma cousine qui habite Paris.
Oui.
Moi, j'étais en Algérie encore à l'époque. Et on a passé la nuit, c'est une autre cousine à nous. Et donc, la propriétaire de l'appartement n'était pas là. Et nous, on était là. Et tout allait bien, on rigolait, tout ça. On avait un chien. Et au moment de dormir, on éteint la lumière. On était hyper fatigués. Et dès qu'on éteint la lumière, il y a du bruit, juste parce qu'il y avait un meuble derrière nos têtes, et juste là, ça bougeait, ça. Et après, dès qu'on ouvre les yeux, ça s'arrêtait. On ferme les yeux, ça reprenait. On ouvrait les yeux, ça s'arrêtait. C'était incroyable. Et on était épuisés. Au début, je pensais que c'était le chien. J'ai allumé la lumière, et le chien, il était là. Après, je l'ai ramené, il dormait avec nous. Et c'est des phénomènes, en fait, que je vis comme ça. Parfois, quand je suis seule, je me dis, c'est peut-être moi, je suis parano.
Non, parce que tu l'es.
Voilà.
C'est...
Exactement.
Ouais.
Mais quand il y a quelqu'un avec moi et qui me le confirme, ben là, je.
Oui, là, tu peux pas. Ouais, voilà. Il y a un témoin, là. Ouais. Ça fait beaucoup.
Il n'y a pas que ça. Parfois, par exemple, je vis un événement, je rencontre une personne.
Oui.
Après, je me vois. C'est bizarre, hein.
Oui.
Mais je vois des choses et je me dis. Ça va m'arriver avec cette personne-là. Je te promets qu'après des mois, et ben ça m'arrive. Ben, c'est incroyable. Bon, je me suis jamais approfondie dans ce sujet. Alors quand j'ai vu t'as écrit sur ça, je me suis parce que tout le monde me dit j'ai pas le temps de, mais un jour je vais m'y mettre, je vais essayer de comprendre c'est quoi.
Ben et, oui. Voilà. Mais tu sais qu'il y a des scientifiques, attention, qui s'intéressent à ces phénomènes. Ah oui. Parce qu'ils sont fort nombreux. Et d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent, parce qu'on ne sait rien, finalement. Les scientifiques, qu'est-ce que tu veux, ils peuvent expliquer que ce qui est palpable, ce qui est matériel, et le reste leur échappe. Alors, donc, ils sont un peu frustrés là-dessus. Hein. Et par exemple, Oui, ces phénomènes que tu décris, les murs, les bruits dans les murs aussi, ça on a entendu, des apparitions, voilà, ça. Et puis les expériences de mort imminente, ça, c'est encore du domaine de l'inexpliqué.
Ça, et tu l'as vécu, toi, Vanessa?
Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, j'avais... J'avais 5 ans et demi environ, je n'avais pas 6 ans, je pense pas, je n'avais pas encore 6 ans, pas loin. Et je l'ai vécu, donc un an et plus tard, là j'ai lu que les enfants, il y a des enfants qui le vivent aussi. Donc voilà, et ça, ma mère s'en souvient très très bien, puisque j'étais entre la vie et la mort, hein, je devais pas partir finalement, et parce qu'on m'a sauvé in extremis, tu comprends. Mais au moment où j'étais passée de l'autre côté, si on peut appeler ça comme ça, j'ai vu, par exemple, j'ai vu mon père que je connaissais pas, je savais même pas que j'avais un père qui était mort, hein, tu vois, parce que un enfant, tu sais, chez nous, on parle pas aux enfants. Donc, on m'a jamais parlé d'un père ou, voilà, j'avais, de la famille, des oncles, tout se passait bien. Et puis, je me réveille, voilà, j'ai vu ça, je leur parle de lui, je parle des personnes décédées. Enfin, c'était vraiment très particulier, très bizarre. Je montre les photos et je donne des noms, enfin, ils étaient pas étonnés. Oui. Et donc, c'était pas le moment. Mais en tout cas, j'étais bien. Ce que je me souviens, c'est pour ça que j'ai pas peur de la mort, hein. Je la repousse le plus loin possible, hein. Non, qu'elle arrive dans le très, très, très longtemps. Mais j'en ai pas peur. Quand elle arrivera, eh ben, écoute, je sais que je serai pas effrayée. Parce que pour moi, il y a quelque chose après la vie. Et que la vie ne s'arrête pas. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que quand qui sont très dans le matériel, qui pensent que quand la vie, quand on meurt, eh bien on devient poussière. Ouh là, c'est plus rien. Ben non, moi j'ai vécu cette expérience qui me fait dire et croire que il y a quelque chose après la vie. Et moi j'étais bien, je me sentais bien, je flottais, j'avais l'impression de flotter. Enfin j'étais bien. Il y avait plus le décor parce que ça c'est quand j'ai fait cette chute, c'était dans la cour. De familial, eh bien, il y avait plus ce décor, il y avait plus rien, j'avais pas de douleur, il y avait rien autour de moi. J'étais tombée sur la tête, alors t'imagines, traumatisme. Eh bien, il y avait rien, il y avait, tu sais, t'es enveloppé comme pas un nuage, mais c'était tout limpide. Tu vois, il y avait quelque chose de lumineux, mais c'est pas de la lumière comme on connaît. Enfin, c'est très particulier et on se sent, on se sent bien. Je me sentais bien. Donc, j'ai cette sensation encore de temps en temps parce que quand on l'a vécu. Eh bien, ça reste en soi. Il y a une mémoire qui reste. Et après, ça développe. Ça dépend des personnes. Ça peut développer des dons. Moi, j'ai eu pendant ce don, ce qu'on appelle médium, où des fois j'ai des flashs et très jeune, ma mère m'a toujours dit non, ne raconte pas parce qu'elle voulait me protéger là-dessus et tout. Mais des choses qui se réalisaient, hein, vraiment. Hein. Ah oui. Et voilà. Mais d'autres personnes ont vécu autre chose. On avait une fois, j'avais vécu. C'était toujours en Algérie, dans la maison familiale, mais une autre. Eh bien, dans une chambre où je dormais avec une cousine, on dormait dans un grand lit et tout ça. Et dans cette pièce, il y a des meubles anciens qui appartenaient à des personnes de la famille qui étaient décédées, etc. Donc, on dormait et donc on se racontait des histoires et tout ça. Tu sais, on aime bien en Algérie être avec les cousines et tout. Et puis on s'endort comme ça. Et puis bon là j'étais quand même une grande jeune fille, hein. Et puis on s'endort et puis là, en plein milieu de la nuit, je peux pas te dire quelle heure il était. Peut-être qu'il était 4h du matin ou la 3h ou la, je sais pas. Je peux pas te dire, en pleine nuit vraiment. D'un seul coup, je sais pas, j'ai mes yeux qui s'ouvrent comme ça, comme si quelqu'un est venu m'ouvrir les yeux, Agda. Allongée comme ça, et je regarde du côté de la porte. Voilà, qui était à l'opposé du lit. Et là, je vois un monsieur, un homme âgé. Un homme âgé. Qui était assis là. Et qui était assis. Et puis il y avait une espèce de fumée qui sortait. Je sais pas si, je sais pas ce qui brûlait ou je sais pas. J'avais l'impression qu'il y avait comme de la fumée. Mal et balèche ce que c'était. Mais il était assis en tailleur comme ça. Et il me fixait, ce monsieur âgé. Donc il était vraiment âgé, avec une barbe blanche et tout, et il me regardait comme ça, mais pas regard ni méchant ni gentil, normal.
Il te regardait seulement.
Il me regardait. Et moi, comment t'expliquer ? J'ai eu des mes poils se sont hérissés de la tête aux pieds.
Ouais.
Lahmitchouk, vraiment. Aïe aïe aïe. Là j'ai eu des frissons incroyables. Et je regarde, et puis après, j'ai tellement peur, je ferme les yeux, je me dis, je rêve et je vais me réveiller et je vais plus le voir. Je ferme les yeux, je me réveille, je dis non, je suis vraiment réveillée. Et je sens, derrière moi, ma cousine qui s'approche, alors que le lit, il est grand, et qui me serre et qui a peur et qui tremble. C'est fou. Et moi, je l'appelle Naïma. Elle s'appelle Naïma. Je lui dis Naïma. Ok, Fatna. Fekha. Parce que, parle arabe. Elle me dit, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Une chauffe-eau. Elle le voyait. Alors donc, c'était incroyable. Voilà, c'est incroyable. Je lui dis, toutes les deux, on tremblait, on ferme les yeux. Et il était là. Après, juste, et quand il a disparu, laisse-moi te dire que la porte, toutes les deux, comme on l'a passé, on s'est cogné, je te raconte même pas, on est sortis, mais alors, à toute vitesse dans la cour, on hurlait dans la cour et la famille est venue nous chercher, on a vu. Ah oui, mais c'est incroyable. Tu vois, il y a des phénomènes comme ça. Et inexpliqués. Mais je suis sûre que parmi nos auditeurs, beaucoup ont vécu ce genre d'expérience. Reste là, Linda, tu pars pas, ma chérie.
Vanessa, attends, juste avant de partir.
Tu vas partir? Tu vas travailler, non, Ortella.
Parce que je vais coucher les enfants.
Ah oui, c'est vrai.
Juste,
alors.
Il y a ma tante et son fils qui nous écoutent, qui nous entendent d'Algérie.
Ah.
Ils ont téléchargé l'application. Et voilà, c'était juste pour leur faire un petit coucou de ta part aussi.
Elle s'appelle comment, ta tante et son fils?
Ma tante, c'est Tata Tounes. On l'appelle comme ça.
Tata Tounes.
C'est la plus gentille de mes tantes, elle est très ouverte, elle est adorable.
Ah.
Et elle t'entend, elle t'écoute à chaque fois.
Ah,
et sa fille, c'est Karim, son épouse Ikram.
Karim et Ikram, les poutins.
Karim, Ikram et Tata Tounes.
Eh bien, écoute, Tata Tounes, on t'embrasse très fort. On embrasse très fort Karim, ton petit ou grand ange. Il a quel âge, Karim?
Karim, il a 5 ans de plus que moi. C'était comme j'avais pas de frère, bah lui, c'était.
C'est ton frère de substitution.
On se jalousait un petit peu, il me tapait quand j'étais petite. Maintenant, on est les meilleurs cousins.
Oh, magnifique. Eh ben, on embrasse Tata Tounes en Algérie, Karim et Ikram, toute la petite famille.
Merci
de nous écouter de là-bas. On embrasse très fort l'Algérie. Il nous appelle d'où en Algérie?
D'Alger,
ouais. La Blanche. Là. Et ben on les embrasse, on embrasse Alger, toute l'Algérie, vraiment.
Merci
Malinda, et tu sais que je t'aime fort, hein, je t'aime.
Moi aussi je t'adore. Bisous.
Bisous, à bientôt Malinda. Linda, elle est formidable, c'est une femme exceptionnelle. Là où il faut pas, elle est là. Elle doit rire là. Là où il faut pas, elle est là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Linda, c'est Mère Teresa, la sauveuse. Mimskinote, j'ai toujours fait un. Elle sauve les autres et après, elle se prend tous les problèmes du monde. Pourquoi? Parce qu'elle fait du bien. Mais elle continue. Ah, elle est formidable, exceptionnelle. 01 53 48 3000, Nabil de Paris, bonjour. Esprit frappeur. Bonjour Nabil.
Oui, Nabil, il est déçu, Nabil, hein, parce que tu l'as mis en attente, ça fait une heure et demie. Tout à l'heure,
qui aime bien châtie bien, Nabil.
Oui, Nabil, qui va passer après.
Qui aime bien châtie bien. Tu sais que le meilleur, c'est toujours pour la fin. C'est le dessert. Hein. Alors, Nabil, qu'est-ce que tu me racontes?
Malade, Vanessa, tu m'as déçu, là, ce soir.
Pourquoi? Parce que t'es passé là, maintenant? Mais elle.
J'ai appelé, ça fait presque une heure et demie, et le malheur, c'est que tu dis.
Linda aussi, Mskina.
Va passer juste après, tu vois. Et après, je vois des personnes qui passent après, tu vois.
Ah non, Linda, elle appelait en premier. Anthony, c'est vrai ou pas? Linda, elle appelait en premier. Et elle a attendu longtemps. Et quand je l'ai pris, Mskina, elle a été coupée.
On t'entend à la radio, c'est enregistré.
Alors, je vais te dire une chose. Tiens, ça fait combien de temps que tu attends?
C'est juste après.
Combien de temps que tu attends?
Après. Attends, j'ai appelé, là, c'est quoi là, c'est...
Vas-y, parce qu'on a le... Attention, ne mens pas, hein, on a l'horloge. Le chronomètre, vas-y, combien?
Là, je t'assure, tu m'as mis en attente.
Combien?
Une heure et demie.
Non, ça fait pas une heure et demie.
C'est pas
Il y en a un qui a appelé avant toi, presque en même temps, mais juste un peu avant, c'est Rabah. Et il est à l'écoute, et il est en train d'attendre.
Et après, il y a Nabil qui va... Nabil de Paris, en plus.
Même oui, et Rabah, il attendait avant toi. Il est en attente. Bon, arrête, on va pas chipoter. Hein. Ah, Beltoné. Alors, Nabil, vas-y. Ah, je suis contente. Tant mieux, alhamdoulilah.
C'est vrai qu'on t'aime bien et tout, mais...
Je ne sais pas
organiser un petit peu.
Ah ben écoute, on fait ce qu'on peut. Hein.
Ah ben voilà, ben écoute, là, je peux pas... Là, j'allais vous raconter une histoire.
Raconte.
Non, pas du tout.
Pourquoi?
Parce que là, je vais dormir.
Il chauffe, Hadaké. Tu fais chouchali, hein?
C'était une très belle soirée.
Nabil, tu vas nous... Allez, raconte ton histoire. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, bois un verre d'eau. Non, vas-y, raconte.
Voilà, rien, voilà. Mais j'ai une histoire pour te raconter. Comment te dire, tu m'as enlevé, c'est-à-dire... quand tu es gratiné, c'est-à-dire le goût, c'est-à-dire le goût, l'envie de cette histoire.
Mais Nabil, tu sais très bien que c'est une radio qu'au standard, on attend toujours longtemps parce qu'il y a beaucoup d'appels. Il y a du son, on est obligé de passer du son. Il y a de la pub, il y a des appels, c'est une radio.
Les dates, il va passer juste après, tu vois.
Schoon. Qui ça, qui ça, qui ça? Qui ça? Mais Malika, elle a appelé la première.
C'est pour toi. C'est pas qu'elle sent que... Voilà, je t'aime bien, j'ai beaucoup de respect pour toi.
Mais moi aussi, je t'aime bien, fais-moi plaisir. Allez, vas-y, Nabil, raconte ton histoire. Aïe.
C'est la première fois où tu m'as mis en attente pendant une heure et demie. J'ai loupé mon émission. Mais Alice, mon émission, bon, je veux dire, ma série télévisée.
Oui, mais c'est nous, ta série, la meilleure.
Non, toi, c'est ma... Comment tu dis ça?
Dis-moi, dis-moi.
Non.
Je sais que tu m'aimes bien, je sais que tu m'aimes bien, Nabil. À la balle, il est habné, je sais que tu m'aimes bien.
Si, bien sûr,
Ah, alhamdoulilah, t'habak. Nabil, t'habak djinna, Inch'Allah.
Inch'Allah, l'écoulier, Inch'Allah.
Inch'Allah, ma djmé, à toi et toute ta petite famille, Inch'Allah. Vraiment.
Inch'Allah,
merci de ta fidélité, vraiment.
Merci beaucoup, Vanessa. Allez, je te souhaite une très bonne soirée.
Moi aussi, Nabil, je t'embrasse très fort et reviens demain, Nabil, ok? Je te prépare le thé. Nous dites le thé à la menthe. D'accord?
D'accord.
Allez, je t'aime, mon Nabil. Aïe, 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 il est fatigué, Mskenaïa. Ah, il peut être fatigué, peut-être il a travaillé toute la journée. Eh, ouais. Abdel, on a Rabah qui attend aussi. Attends, avant de prendre Abdel, Rabah, il va me faire aussi la vie. Oh là là, mon Dieu.
Moi, je te fais la vie. Moi, je te ferai voir la vie.
Ah, voilà. Voilà, voilà, tranquille.
Tranquille.
Ouais, ça fait plus d'une heure qu'il attend Rabah aussi. Voilà, il dit rien.
J'ai rien à dire.
Voilà. Bonsoir Rabah, comment vas-tu?
Ça va et toi?
Eh ben écoute, tout va bien, alhamdoulilah. Hein. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Vas-y. On va aller très vite parce qu'il y en a qui attendent aussi, donc ils vont me faire la vie aussi. Vas-y.
Ils vont te faire la vie?
Oui. Qu'est-ce que tu me racontes là ce soir?
Ah, moi, c'était juste un truc bizarre. Du henné sur les mains.
Du henné sur les mains?
Ouais. Tu te réveilles le matin et
du henné sur... Ouais, ça, il y en a beaucoup qui le disent, mais... Oui, il y en a beaucoup qui le disent. Mais, comment dire, j'ai jamais pu expliquer ce que c'était, mais peut-être que c'est une question de pigmentation. Parce que fut un temps où j'ai été voir un petit peu pourquoi, parce qu'on m'a raconté tellement d'histoires là-dessus, de pigmentation. Je sais pas.
Franchement, ça m'est arrivé deux fois.
Ouais. De pigmentation, apparemment, des mains qui se colorent, voilà. Ça peut être... c'est dans toutes les cultures. C'est pas du henné, hein, attention, parce que le henné...
Non, mais...
Voilà, on a l'impression que c'est du henné, mais c'est la pigmentation, parce que comme on a les mains... Quand tu regardes la paume de ta main, ben, y a du orange, hein, elle est un peu rouge. Eh bien, parfois, tu as des taches qui sont un peu orangées, et apparemment, c'est ça. Voilà.
Non, après, je sais pas ce que c'est, mais ça m'arrive.
Ouais, non, c'est une histoire, une affaire de pigmentation, paraît-il. Hein. Parce que le henné, ça n'a rien de divin, ça n'a rien de surnaturel.
Non.
C'est une plante, voilà, que dans certaines cultures, on utilise en Inde, dans les pays du Maghreb, etc. Donc, ça n'a aucun symbole, hein, vraiment. C'est pas divin. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas surnaturel. Donc, c'est une, non. Voilà, c'est dit, hein, tu chercheras, c'est la pigmentation, voilà, qui.
Non, j'ai fait même.
Voilà, comme ça, tu le sais.
Des tests,
ouais.
Ce que tu veux.
Non. Il n'y a aucun d'eux. Attends, ne pars pas, Nabil. On a un autre Nabil qui nous appelle de Marseille. Rabah. On a Nabil de Paris, Chenfalia. Et Nabil de Marseille, on va voir. Toulouse, 31, c'est Toulouse. Ah, c'est le 13.
Ouais, c'est Toulouse, salut.
J'ai inversé parce que c'est le 13, Marseille. Et toi, c'est le 31. N'importe quoi. Aïe. Tu sais quoi, c'est Nabil qui a calibré la race. Bonsoir, Nabil. Comment vas-tu?
Bon.
Tu vas bien? Essaye de bouger parce que ton téléphone... Ah, c'est dommage. On n'entend pas très bien. T'as tout éteint? Pas de radio, pas de haut-parleur, pas de...
Non, j'ai rien.
Ah ouais, ça c'est les entités. Les Nesdar. Tu sais ce que c'est Nesdar? Les habitants de la maison. Les entités. Tout, tout jeune, on nous dit, quand vous rentrez dans une maison, dites toujours, Monsieur Khair Ali, moi je le fais, hein. Je le fais. Ma mère m'a dit, je le fais. Quand je rentre chez moi, je dis toujours Monsieur Khair Ali, pour Nasdar. Voilà. Tu le fais, toi, Nabil?
Bien sûr.
Ouais.
Tu m'entends?
Oui. Oui, oui, je t'entends, là.
Super. Ouais, en fait, c'est parti.
Ah, je t'entends pas. C'est entrecoupé, oui. Nabil. Pourquoi?
Ah, je sais pas. Aucune idée.
Essaye de changer de zone.
J'ai pas beaucoup de charges, peut-être, c'est pour ça.
Ah, c'est pour ça. Essaye de le brancher.
Ouais.
Mets le chargeur. Vas-y. Ah, il m'a l'habé. Bah, t'as étolé avec le téléphone déchargé.
Je vais t'en. J'ai content ce soir.
J'entends un mot sur. Sur 10, gars. C'est bon, là? T'as mis le chargeur?
Ouais. Tu m'entends?
Non. Je sais pas ce qui se passe.
Allô?
Oui. Essaye de parler, on va voir.
Oui, je t'en.
Ben non. Non, Nabil.
Oh, mais dommage.
C'est dommage, parce que je suis sûr que t'as des choses intéressantes à dire.
Oui, j'avais plein de trucs à raconter.
Ah ben là, ça va. Vas-y, continue. Ne bouge pas, hein.
Oui, je bouge pas.
Vas-y.
Je voulais d'abord raconter une expérience vécue lors d'un mariage qui concernait
ma
soeur.
Nabil, ça coupe.
Ouais, c'est dur.
Ça coupe. Est-ce que tu as une zone chez toi où tu captes mieux la fenêtre, peut-être? Sans te pencher trop, hein.
Ouais.
Fais attention, en balèque. Hein. Est-ce que tu as un balcon, une fenêtre, un jardin? Qu'est-ce que tu as chez toi?
Là, ça y est, je suis dehors, là, pratiquement.
Tu es dehors? Oui. Ouais.
Tu m'entends, non?
À mon avis, il y a des extraterrestres, peut-être que... Regarde s'il n'y a pas une soucoupe volante au-dessus de ta tête. Il y a des interférences. Vas-y, essaye. Voilà. Là, on dirait que c'est mieux.
Bon. Oui, je te disais que c'était une expérience qui concernait ma sœur.
Ah.
Et alors c'était lors d'un mariage au bled en Tunisie.
Oui.
Et en fait, tu sais, il y a ce qu'on appelle, lors d'un mariage, il y a des gens qui viennent, qui font des prières, etc. Puis il y avait un groupe de gens qui faisaient ce qu'on appelle le stand-by, enfin je sais pas comment on peut le dire. C'est des gens qui dansent jusqu'à rentrer en transe, en fait.
Ah, c'est comme les derouches tourneurs. Ijdbo.
Je me souviens.
Il y a des gens qui font ça dans certaines régions, effectivement, oui.
Et en fait, ma sœur était en haut, sur un grand balcon avec d'autres invités. Et bah, elle criait, elle parlait fort, enfin elle s'en foutait complètement de ce qui se passait.
Oui.
Et à un moment donné, un des gars lui a parlé dans un dialecte, hein, il a regardé, et là j'ai vu ma sœur complètement transformée, qui voulait carrément... Je suis encore enjambé la balustrade,
oh là là.
Pratiquement pour sauter. Elle est descendue en courant des escaliers, etc. Elle s'est mise à faire la même danse qu'eux.
Ah ouais?
Elle est rentrée en transe. Ouais, ouais, c'est un truc de malade.
Ah ouais. Oh,
et du coup, bon, après ça, pour dire quoi? Pour dire que ils lui ont fait promettre, ils lui ont expliqué après par la suite, ils lui ont fait promettre que lorsqu'elle se marierait, elle appellerait une des confréries qu'on veut pour pouvoir assister à son mariage.
Ah ouais? De ces gens qui font jdba. Jdba, je sais pas comment on dit.
Oui, c'est. Enfin, moi, ça m'a.
C'est impressionnant, hein? Oh, ouais, moi, ça m'a toujours impressionné, tu sais. Il y a des régions, même en Algérie, à Constantine, où ils font ça. En fait, c'est les battements de cœur. C'est le qui suit le rythme d'une certaine, un certain
oui,
son. Hein, il y a des musiques, il y a un certain son. Et ce son, si tu veux, il est joué au même rythme, sur la même base. Des battements de cœur, de nos cœurs, quoi, hein, voilà, de cœur. Donc, ce qui fait que, si tu veux, il est vraiment en osmose avec nos battements de cœur, et qui fait que, eh ben, les gens, ils sont pris en transe. Moi, c'est ce qu'on m'a expliqué, hein. Et c'est vrai que ça m'a toujours impressionné, et même fait peur, parce que je me dis, ces personnes, un jour, elles vont tomber, et c'est pas possible.
Puis psalmodier, tu sais, donc il y avait un rythme, il y avait un débit de parole lassinant, enfin
c'est
voilà,
ça.
C'est incroyable. Bon, ça c'est concerné ma sœur. Après, moi j'ai vécu comme toi, comme des millions de personnes.
Ouais.
Donc voilà, une IME banale.
Ah, tu l'as eu.
Oui.
Tu avais quel âge?
J'avais 11 ans.
Ah ouais. Ah ouais, tu es un enfant, ouais.
Ouais, ouais. Ça se passait dans une piscine municipale.
Oui.
Moi, j'habite Toulouse, donc ça se passait à Montauban. Et c'était impressionnant, quoi. Bon, je me suis noyé. Et c'est un...
Tu t'es noyé?
Oui, oui, c'est un sapeur-pompier qui m'a reçu une commande.
Aïe, 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 aïe.
J'étais en train de nager dans le grand bassin. Je nageais pas très bien, mais je me démerdais, quoi.
Bien sûr.
Et du coup, j'ai eu une crampe hein, à la cuisse.
Mmh.
Et j'ai coulé, tout simplement, bêtement.
Aïe.
Voilà ce que je me souviens. Et après, c'est des années et des années et des années après que tout m'est revenu. Puisque sur le moment, j'ai tout oublié. Je l'ai vécu, je le sais, puisque quelques années par la suite après, je vais te raconter comment ça s'est passé.
Oui.
Donc le gars, il m'a sauvé, il m'a sorti de l'eau. Bon, j'avais un peu la mâchoire un petit peu crispée, etc.
Mm-hmm.
Tu m'entends ?
Je t'entends, oui. Et
oui,
donc
et du coup, après, bon, quelques
années. Et tu te souvenais plus après, c'est que quelques années plus tard ?
Non, je me souvenais, on m'a dit on t'a sauvé, etc. Bon.
Mais tu te souvenais pas de ce que tu as vécu ?
Rien, absolument. Ça, rien.
Parce que tu l'as bloqué quelque part dans un coin de ton cerveau, ouais. Et alors, après ?
Et alors, quelques années après, je devais avoir quoi, 25 ans, un truc comme ça ?
Oui.
J'étais dans ma chambre, chez mes parents encore, je vivais chez mes parents.
Oui.
Et bon, en pleine nuit, comme ça, mes yeux se sont ouverts, et j'aurais vécu cette noyade, je revis plus ce que j'ai vu, etc. Ça m'a choqué, on m'a fait une force incroyable. Donc j'ai revécu ça plus tard, tu vois.
D'accord.
Et ce que j'ai vécu, ben c'est simple. Hein. Je me suis revu, moi j'avais 11 ans, je me suis revu tout petit au bord de la mer, en train de manger une salade de pommes de terre avec des sardines. Quand j'ai dit ça à mes parents et à ma grand-mère, etc., ils m'ont dit, mais non, t'étais trop petit, tu peux pas te souvenir de ça, etc.
Alors que c'est vrai.
Oui, c'est incroyable. J'ai revécu, si tu veux, le film de sa vie. Mais moi, j'avais 11 ans. Donc, c'était une vie très, très, très courte. Mais je suis remonté très, très loin dans mes souvenirs. C'est marrant.
Ah ouais.
Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire.
C'est vrai.
Et ensuite, après, c'est vrai, j'ai eu l'expérience de la lumière. Et j'ai eu aussi un groupe de personnes qui sont venues au-devant de moi, comme ça.
Mmh.
Et en fait, quand j'ai dit deux personnes, c'est plutôt comme des ombres de lumière. Enfin, en tout cas, je sais que c'est des gens qui étaient dans ma famille. C'est drôle, hein. J'étais sûr et certain que c'est des gens que je connaissais, mais...
Oui, c'est des proches, mais tu les avais pas vus parce qu'ils n'étaient pas dans le même espace-temps que toi. Peut-être c'est des ancêtres, peut-être des arrière-grands-parents.
Mais mes grands-parents étaient vivants du côté
des arrières, peut-être.
J'en sais rien, mais en tout cas, c'était sûr et certain.
En tout cas, tu te sentais en sécurité avec eux, puisque tu sentais que c'était des personnes.
Ils m'ont parlé, hein.
Proches,
enfin,
quoi.
Plus, ils m'ont parlé, enfin, j'ai plus entendu leur voix dans ma tête que. Enfin, on n'a pas eu un échange. Ils m'ont fait comprendre que c'était pas le moment.
Ah
moi,
oui.
J'étais content, j'étais en paix, j'étais bien, j'ai jamais vécu un délire comme ça.
En tout cas, ce qui est fort, c'est que tu dis que ces personnes, tu savais, tu sentais que c'était des proches, c'était des personnes.
C'est sûr.
Voilà.
C'était de la famille.
C'était de la famille, c'est.
Voilà.
C'est pas des étrangers, quoi.
Non,
c'est souvent ce qui revient dans les EMI. On sent que. On ne sait pas qui sont ces personnes parce qu'on ne les a jamais vues, mais c'est comme si on les avait toujours connues. C'est une sensation.
Du coup, je me suis mis à parler de ça autour de moi et je me suis rendu compte que j'avais des copains, des amis aussi de l'époque. Quand j'avais 25 ans, donc voilà. Et il y avait des gens qui avaient vécu aussi ces expériences et ils se sont mis à pleurer en me disant qu'ils n'avaient jamais osé en parler.
Tu vois,
du fait que j'en parlais, ça les a libérés et ils étaient contents de pouvoir le faire, etc.
Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont vécu mais qui n'osent pas en parler de peur d'être pris pour des...
Notamment,
pas très au sérieux, quoi.
Oui, j'avais un copain qui conduisait un 44 tonnes. Il s'est renversé. Et il a eu un accident très grave. Et là, il a vécu la déportation, le tunnel. Enfin, il m'a tout raconté, quoi. Et c'était extraordinaire. Et en fait, il y a des millions et des millions et des millions de personnes depuis la nuit des temps qui vivent ça, quoi. Je me suis
ensuite
renseigné sur le sujet, bien sûr.
Mais oui.
Et voilà, je me suis dit, bon, c'est presque banal aujourd'hui d'en parler, quoi.
Oui, heureusement, ça s'est banalisé. Et puis la science aussi, on parle beaucoup. Il y a des films aussi.
Oui, il y en a qui parlent d'un grand shoot, que c'est le cerveau qui nous fait croire que et qu'il n'y a rien après. D'autres, au contraire, disent mais non, mais écoutez, c'est pas possible qu'il y ait rien. Enfin, voilà tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a senti, l'amour, surtout c'est ça, l'amour, la paix. Ils avaient un sentiment d'amour extraordinaire.
Oui.
Et voilà, l'expérience que ça les a rendus peut-être un peu meilleurs, un peu plus meilleurs. En tout cas, ils étaient beaucoup plus.
Plus dans la bienveillance.
Dans la bienveillance par rapport aux autres.
C'est vrai.
Et tu sais, c'est pas. comment dire, c'est pas un hasard non plus que j'ai pris les chemins du coup de ma carrière dans le social, de m'occuper des autres et tout.
Ah oui, aujourd'hui, tu vois.
C'est ce que je fais un petit peu comme.
C'est fou, hein.
Comme analyse un peu de ce parcours. Quoi.
Oui.
Voilà, je voulais juste témoigner de ça, je ne veux pas accaparer la vie.
Ben non, mais on arrive à la fin avec toi et c'est, on termine bon. Bien en tout cas l'émission puisque ce sont de belles expériences que tu nous racontes là et celles de ta sœur et puis les tiennes. Voilà.
Ouais, et... j'ai entendu aussi que ce que tu as vécu, hein, c'est incroyable.
C'est fou, hein.
On fait partie du même club, Vanessa.
Oui, exactement. Non, mais ça fait du bien. Ça fait du bien, vraiment. Ah oui, complètement. On est frères et sœurs en EMI. En tout cas, merci beaucoup, Nabil. On arrive à la fin, là, on doit rendre l'antenne. Bon. Et c'était formidable. Merci de ton expérience, de l'avoir fait partager. Et reviens, surtout.
Oui, merci beaucoup. Et ne change rien, hein, Vanessa.
C'est gentil. Merci beaucoup, je t'embrasse fort. Merci, aussi, à bientôt, Nabil. Au revoir. Merci, Rabah et les autres. Hein. Désolé, ça y est, on arrête, là. C'est fini, on ferme la boutique et on se dit à demain, n'est-ce pas, Anthony?
Exactement, à demain. Bonne nuit, tout le monde.
Merci, bonne nuit à toi aussi, merci. Anthony. À demain. Belle et douce nuit, chers amis. On vous laisse avec les programmes.
De Rail Anthologie, riches et variés.
Ben voilà, c'est bien. Alors tout de suite, c'est Rail Anthologie. Et Rail Anthologie, c'est vraiment un programme bien travaillé, bien ficelé pour vous, chers amis. Vous allez voir, c'est juste magnifique. Vraiment. Et juste après, ben, des rediffs et tout ce qui va avec. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain dès 11h. Alors le matin, vous allez retrouver Kim, Mouna, Fodil pour la matinale. Et moi, à 11h, de 11h à midi pour vos petites annonces. Et le soir, Confidence, bien sûr. Donc à demain, 11h. Je vous aime. Bye.
Retrouvez Confidence tous les jours de 21h à 23h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.